service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du service après-vente de la F1 consacrée au Grand Prix d'Italie, disputé pour la 59e fois sur l'Autodromo Nazionale di Monza. Pour la dernière fois de la saison, en effet, la F1 avait déployé ses plus beaux apparats sur un circuit européen, dans l'un de ses berceaux, enfin surtout celui de Ferrari. Après son exploit de l'an passé, Sébastien Vettel pouvait espérer conserver son bien une année de plus, avec une monoplace que tout le monde voyait comme l'ultime favorite sur ce circuit, en concurrence avec les voitures équipées du KERS. Malheureusement pour lui, impuissant, le pilote allemand aura dû se contenter de regarder ses adversaires s'envoler droit devant lui pendant la course et peut-être même au championnat. Alors dans cette émission, nous ne dérogerons pas à la règle, comme certains peuvent parfois être tentés de le faire. Nous reviendrons sur tout ce qui a fait l'actualité de ce Grand Prix, mais aussi de la F1 pendant ces trois dernières semaines. Mais avant de lancer mon traditionnel bonjour Shinji, bonjour Enzo, je voudrais avoir une pensée émue pour un homme qui nous a quittés cette semaine. Il n'avait que 59 ans, les cheveux blancs, le poil fleurissant en guise de chemise, et ce petit accent qui florbon la pizza et le Chianti. Il nous a quittés, fauchés en plein vol par un scandale, un dernier scandale qui aura éclaboussé cet homme à la moralité parfois douteuse. Flavio Briatore nous aura fait découvrir des talents comme Michael Schumacher ou Fernando Alonso, mais il nous aura aussi rappelé que rien n'est impossible en Formule 1, même l'impensable. Alors en sa mémoire, et parce que nous ne le regretterons sans doute pas, ayons une pensée pour lui.
Au revoir, Flavio.
C'est la fête.
Donc, bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour. Au revoir Flavio.
disons, en ce moment, c'est notre fête. Hein. Le retour de Schumacher qui nous a occupé pendant deux émissions, l'anniversaire, le départ de Flavio. Que la F1 est généreuse. Donc, n'en disons pas trop sur Flavio Briatore. Attendons la suite du déroulement de l'émission. Et je vous propose, sans perdre de temps, de commencer tout de suite par cette rubrique légendaire.
Jingle.
Petit jingle. Ah ouais, bah, j'oublie mes jingles, moi.
Eh ouais.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Le chiffre de la semaine.
Je crains de pire.
Et le chiffre 37,4. qui n'est pas le nombre d'amis qu'il reste à Flavio en F1.
Oh non, il en reste moins.
Encore moins que ça.
Bah, c'est lié à l'Italie.
Oh, ouais. Bien Enzo.
Mais pas à la F1.
Ah ça oui, t'as commencé à être habitué.
37,4. L'inclinaison de la tour de Pise.
Non.
Oh, j'ai cru que c'était ça. C'est la distance entre Monza et Maranello.
C'est une distance, t'as dit, hein?
C'est une distance.
D'une piste de F1?
Non.
En kilomètres?
Non.
En mètres?
Oui.
C'est la largeur de la piste à l'endroit où il y avait le croisement entre la piste qu'on connaît actuellement et l'anneau de vitesse?
Non.
C'est la longueur de la plus longue pizza dans le monde.
Bravo Enzo!
Il fallait le trouver, celui-là.
Bravo.
Elle a été faite Pick and Pay. C'est un supermarché à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Oh non, une pizza faite dans un supermarché.
Homologuée hein, par le Guinness Book. 37,4 mètres de diamètre. 500 kilos de farine. 800 kilos de fromage. 900 kilos de purée de tomates. Et ça a été accompli le 8 décembre 1990.
Et ils l'ont mangé à combien?
L'histoire ne le dit pas. Mais j'ai d'autres records autour de la pizza.
Ah, on veut savoir.
Par exemple, j'aurais pu vous donner le chiffre de 16 950. 16 950.
Nombre de pizzas mangées par une famille en un an.
C'est le record c'est le record du pizza YOLO en une semaine.
Alors, c'est une distance. C'est en fait la distance du la plus longue livraison de pizza de la planète. La pizza a été faite à Londres. Elle a été envoyée à Melbourne en Australie. Ouais, et c'était une suprême pizza végétarienne.
Et ça a coûté combien?
Bah, ça n'a rien coûté puisque la livraison a duré plus de 30 minutes.
Ah, ça sent le mec qui a préparé le chiffre qu'il s'est dit.
Ça sent. On va...
Elle est arrivée moisie. Elle est arrivée moisie. La pizza est froide.
Tu as d'autres chiffres sur les pizzas?
J'ai la plus chère pizza. Elle a été faite par le restaurateur Domenico Crolla. Elle inclut alors de la sauce tomate, mais attention, des tomates qui ont été élevées au soleil bio et tout ça, mais aussi du saumon fumé d'Écosse, des médaillons en fait de gibier, de cerf, de chevreuil, de l'or alimentaire légèrement sur la pizza.
Alors, ainsi que saumon déjà l'or... avec gibier, je le sens mal mélangé.
Du homard mariné au cognac.
Oh, ça me donne envie de vomir.
Et la pizza la plus extravagante.
Ah bah déjà, déjà homard, gibier et calvados.
Elle est vendue à New York au Nino's Bellissima.
Hein il le dit bien.
Hein. Il le dit bien. Hein.
What a wonderful accent.
Beautiful. Fabriqué avec 6 variétés de caviar.
Oh l'horreur.
Du homard frais, de la crème fraîche et bien sûr un peu de ciboulette. Cette pizza de 30 cm. Cette pizza appelée la Luxury Pizza est vendue 1 000 $ ou bien, si l'on est plus pauvre, 125 $ la part. À noter, pour aller sur un registre beaucoup plus sérieux, qu'Alfonso Pecoraro Scagno, ministre italien de l'agriculture, a demandé le classement de la pizza auprès de l'UNESCO, arguant du fait que les spécialités culinaires sont l'expression culturelle d'un peuple et dépositaire de sa tradition et de son identité. La recette de la pizza napolitaine a notamment été inscrite au journal officiel italien en mai 2004. Parce qu'on rigole pas avec la pizza.
Alors faut quand même applaudir chez Dieu parce que... On a Enzo qui découvre des fonctionnalités.
J'en ai rien à foutre, je leur dirai pas.
Hein. Et qui est en train de pourrir, je dis.
J'en ai rien à foutre, on fait pas la séquence.
Ah, pardon, excusez-moi, je suis assoupi. Très intéressant, Stingy. Et donc, au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils veulent l'inscrire.
J'en ai rien à foutre, t'avais qu'à suivre.
Mais j'ai écouté la preuve. C'était pour me venger de mon en position de la dernière fois.
Ah, le salaud, il se venge parce que c'est moi qui ai mis concordant en position, il se venge sur CG.
J'ai mis une bombe, faites gaffe.
Ah, pourquoi je lui ai donné ce logiciel? Pourquoi? Donc c'est tout. C'est
attends
tout.
La prochaine fois. J'aurai le temps de préparer.
Donc c'est tout pour cette semaine.
C'est tout pour cette semaine.
Bah, merci pour ton chiffre inutile.
Oui, merci Cindy.
Donc, avant de passer au retour sur l'actualité, j'avais lancé sur le blog une bouteille à la mer. L'annonce d'une nouvelle rubrique. Donc voilà, je vais vous ouvrir notre boîte de vodka.
Répondeur.
Notre, ouais, merci.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore.
C'est la fin des générations, celle des grands managers des années 90 et 2000, Jean, Ron et Flavio. Jean est parti tranquillement, un peu éclaboussé par les scandales de vous savez qui. Ron est parti après le Spygate et l'affaire du mensonge du Grand Prix d'Australie, et Flavio sur la plus grande tricherie de l'histoire de la Formule 1. Ils auront tenté, tant bien que mal, de succéder à de grands managers tels que Enzo Ferrari, Colin Chapman ou Guy Léger. Ils n'auront pas été très honnêtes, mais resteront quand même dans l'histoire de la Formule 1. Souhaitons donc bonne chance à leur successeur, Martin, peut-être alors. et Stefano.
Service après-vente de la F1.
Voilà, c'était notre répondeur.
Alors, maître Guy Ligier avec Colin Chapman et Enzo Ferrari, excusez-moi quand même.
Puis à un moment donné, j'étais choqué.
J'ai qu'une chose à dire, c'est ça.
Oh là là.
Donc, on rebondit tout de suite sur la réflexion, c'était de Jérôme.
Eh mais il va falloir lui couper le micro, allez.
j'en ai marre.
Non, pas déjà.
Donc, je propose qu'on rebondisse tout de suite sur le Crash Gate.
Oui, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça.
Oui,
quel beau nom.
Il y a eu plein de noms, le Singapour Gate, le Piqué Gate.
Non, le Crash Gate.
Voilà.
Je trouve ça pas mal.
Après, le Spy Gate.
Yes. Ouais.
Voilà. Et le Bill Gate.
C'est nul.
Nous prions nos auditeurs de bien vouloir nous excuser pour cette vanne toute pourrie de Yannick.
Donc.
Ça vendra à chaque fois que c'est une blague nulle.
Donc, l'affaire Renault. On a eu la décision un peu plus tôt dans la journée, puisqu'on enregistre lundi soir.
Ouais.
Donc, suite à l'affaire Renault, nous avons donc aujourd'hui le délibéré.
Exclusion à vie.
Avec 2 ans
avec
de...
sursis de 2 ans.
Voilà. Donc ça veut dire que d'ici 2 ans, s'ils refont une boulette dans le même genre, c'est fini à vie la Formule 1.
Autrement dit, c'est une farce.
Ils s'en tirent super bien.
Moi, je trouve que c'est une farce.
Ah ouais, ils s'en tirent super bien.
C'est du n'importe quoi.
Même pas une amende financière, que dalle.
Bien sûr, il fallait virer Pat Symonds et Flavio Briatore comme ils l'ont fait. Mais je suis désolé, Renault, en tant qu'entreprise, est entièrement responsable de ce que fait ses dirigeants. Et donc, ils doivent être punis. Moi, j'ai rien contre Renault, hein, vraiment. Hein. Ça serait Ferrari, je dis... Non, peut-être pas quand même. Non, mais on peut pas... Je trouve que c'est un peu trop facile de dire on dégage les coupables. Et McLaren l'avait fait en 2007. On va dire, on me revoit encore 10 ans après. En 2007, ils avaient viré aussi les responsables du Spygate. Et pourtant, ils ont été condamnés quand même à leurs 100 millions d'amende, 100 millions de dollars d'amende.
Ouais, voilà.
Donc, je trouve ça un peu... voilà, on a fait un énorme ballon de baudruche là et c'est.
Mais c'est surtout c'est que quand on regarde les événements de la semaine qui s'est écoulée depuis le Grand Prix de Monza, on a quand même l'impression qu'on a laissé vraiment le temps à Renault d'abord de se dégager, donc ce qu'ils ont fait mercredi dernier en virant à la fois Briatore et Pat Symonds, et puis après effectivement on a eu un petit quiproquo là sur les différents sites d'information. On avait annoncé le report de la réunion à mercredi.
23.
Sauf qu'en fait, c'était juste un report du délai limite pour Renault pour se défendre. Et l'argument de la FIA, c'était de dire, bah oui, c'est pour laisser la parole à la défense de Renault. Sauf que ça fait quand même 4 semaines que Renault, ils se défendent. Qu'ils ont pris des positions derrière Briatore.
Oui.
Donc ça fait un petit peu dire, voilà, on permet à Renault de s'en sortir, comme ça derrière, nous, notre seul but, c'est de taper sur Briatore. Et c'est vrai que le fait qu'on charge à fond sur Briatore, parce que Briatore... Lui, il s'est pris une grosse peine. Hein. À l'inverse, on tape trop faiblement. Moi, je trouve trop faiblement sur Renault. Il aurait dû avoir une peine.
Moi, ce qui me choque dans cette histoire, parce que je crois que le mot est pas trop fort, c'est le fait qu'on condamne pour Renault, c'est une chose, mais c'est surtout qu'on a appris que la FIA était au courant depuis 1 an et ils n'ont rien fait. Et ça, je trouve ça lamentable.
Bah, l'argument de la FIA, c'est que donc
tant qu'il n'y a pas de plainte, on peut rien faire. Désolé.
Pour revenir à ce qui était dit.
Ils peuvent se saisir de l'affaire s'ils le souhaitent. Hein. Ils l'ont déjà fait par le passé.
Pour revenir sur les détails. Donc effectivement, après le crash, Nelson Piquet Senior a demandé à son fils de lui dire c'est pas possible, t'as pas pu te planter. Et son fils a avoué, il a dit oui, effectivement, on m'a demandé. Et donc au Grand Prix du Brésil l'année dernière, Nelson Piquet Senior est allé à la rencontre de Charlie Whiting, le directeur de course, et lui a dit, voilà, qu'est-ce que risque mon fils si on met ça sur le devant de la scène. Et donc, Whiting lui a dit, pour le moment, vous ne pouvez rien prouver. Et donc effectivement l'affaire a traîné comme en attendant que Piqué se fasse virer. Et c'est vrai que le côté qui est un peu
il pouvait tout autant prouver que actuellement. Hein.
Voilà, qui est un peu hypocrite, ouais. c'est en quoi est-ce que il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui comme l'a fait Piqué qui témoigne. Il suffisait juste de dire voilà, nous on a un renseignement comme quoi il y a peut-être une tricherie, on veut écouter vos bandes sonores, on veut écouter on veut voir vos télémétries, etc. Et sur ces preuves là il pouvait faire quelque chose.
Tout à fait. Et donc, ça moi je trouve ça un peu lamentable qu'ils aient rien fait parce que les faits étaient quand même relativement graves, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc tout ça c'est un peu
Alors surtout que là on peut même pas sortir
c'est un peu choquant.
On peut même pas sortir l'excuse de dire oui, vous savez avec parce que ça a été l'excuse là, pendant toute la saison 2009, c'était de dire avec la guerre FIA FOTA, on n'a pas eu trop le temps de s'occuper des autres affaires.
C'est on notamment arrêté avec ces
ce qui a notamment avait justifié le fait qu'il y avait eu très peu de pénalités, très peu d'interventions contre les pilotes. Mais non, mais là ça remonte au Brésil, donc ça veut dire juste en novembre 2008.
Et là je pense que s'il l'avait fait à ce moment-là, Honda était encore là, BMW avait
oui.
encore
annoncé.
La sanction aurait pu être terrible pour Renault.
Ouais.
Je pense qu'il aurait pu être carrément exclu.
Oui, tout à fait.
Bien sûr, c'est parce que je leur souhaite encore une
mais
fois.
Mais surprends, enfin, ce qui m'étonne, c'est que Renault n'ait pas été exclu du championnat 2008. Ne serait-ce qu'à titre symbolique.
Oui, c'est vrai.
Mais Renault n'est exclu d'aucun championnat.
Mais c'est une question de sous. Et ils auraient pas eu leur prime FOTA du moins leur
faux. Et alors, je sais pas combien c'est la prime, ça doit être quelques dizaines de millions d'euros. Voilà, tu leur dis,
Oui. Bah, ça aurait pu être, à mon avis, c'était peut-être 50 ou 60 millions d'euros, et ça fait quand ils ont fait toute l'année en comptant là-dessus, c'est comme si tu leur demandais maintenant 50 ou 60 millions d'euros.
Parce que du coup, c'est ça le paradoxe, c'est que à la fois on a l'écurie qui reconnaît sa tricherie, on a une condamnation officielle de l'écurie, même si elle n'est pas pénalisée, on a une condamnation officielle, on a une condamnation sévère envers sévère et juste hein, de mon point de vue envers Briatore et envers Pat Symonds et pourtant on est toujours confronté aux mêmes questions quant au fait de ce Grand Prix. Est-ce que son résultat est crédible? Est-ce que par conséquent du fait de son résultat, est-ce que le championnat 2008 est crédible? On commence à
ça on peut pas. Moi je trouve que c'est
là, c'est vraiment aller loin dans les suppositions.
Voilà, c'est aller loin quand on dit Lewis n'est pas digne de son titre, etc.
Non, mais je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y a aucune réponse claire et nette là-dessus. En voyant le truc, c'est le truc qui m'a manqué. Quoi. Je me suis dit, voilà, on n'a pas plus d'informations. Grosso modo, ça, on se doutait que Renault allait être condamné. On se doutait du verdict, même si le verdict de Renault est une surprise. Parce qu'on s'attendait à une amende qui oscillait entre 34 millions et 50 millions de dollars. Et pourtant, j'ai encore des questions que je me pose dans ma tête sur... Et d'ailleurs, à ce propos, petite question. Puisqu'on a le Conseil mondial du sport automobile, le CMSA.
Oui.
Mais il y a aussi le CMSAV. Le Conseil magistral du service après-vente de la F1.
Oui.
Et donc, je vous demande...
Qui a beaucoup plus de pouvoir, d'ailleurs.
C'est vrai.
Exact.
Puisque nous touchons un nombre de fans impressionnant.
Nous avons une autorité qui est nous sommes responsables du classement du SAV. Je vous demande, monsieur, devons-nous, au regard des preuves qui nous sont présentées, procéder à une exclusion ou à une pénalité à l'égard de Renault sur le classement du SAV?
Tu vas nous redire les classements actuels
En plus, ils sont mis à jour.
J'y
ai pensé ce midi, je me suis dit, je vais y avoir le droit ce soir. Non, je les ai mis à jour. Donc, nous avons Alonso qui est 9e avec 4 points et nous avons Piqué qui est 13e ex aequo avec 1 point. Donc, ça fait 5 points pour Renault.
Et puis, on supprime aussi ceux de Grosjean, alors. Hein.
Ah oui, merde, j'ai oublié Grosjean. Oui, donc, ça fait 6 points. Hein. Donc... On prend pas de sanctions, on prend des sanctions.
Bah, ouais, la question, c'est est-ce que on considère que Piquet mérite une immunité ou pas?
Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est
et truc, là encore, c'est... le problème, c'est qu'on fait pas de classement constructeur, nous. Et là, on peut c'est pas vrai. Pénaliser les pilotes, donc je pense qu'on va rester avec nos classements actuels.
Ouais. Donc, sur l'affaire Renault, vous avez d'autres commentaires?
Sincèrement. parce que tricher, c'est pas grave.
Est-ce qu'on peut revenir sur le cas Briator, puisque c'est un peu...
Je pense que sa sanction est pour l'ensemble de son œuvre.
Oui, oui, voilà.
Et non pas seulement celle-là. On pensera au coup
des pompes à essence. Quoique là, c'est quand même son chef
d'œuvre. Oui, tout à fait. Au coup des pompes à essence en 94 ou...
Au nombre de carrières qu'il a pourries.
Oui, tout à fait. À Franck Montani, à Piquet Junior, à... Qu'est-ce que j'oublie? Sans doute beaucoup d'autres.
Oh oui, on pourrait parler de Trulli viré comme un malpropre, des choses comme ça.
Oui.
Oui.
Et moi, je voulais vous poser une question. D'après vous, l'accident de Grosjean à Spa, il est volontaire ou pas?
Oh non.
Non, je me sentais obligé de demander, les mecs. Je suis désolé.
Fallait que je demande. En même temps, on peut pas revenir sur les 20 ans de carrière de Briator. Hein.
Parce que quand on y pense... Les mecs, quand on y pense, Grosjean, il sort qui? Il sort Button. Il permet au Red Bull Renault de revenir. Red Bull Renault qui est en plein doute sur les moteurs Renault. Donc, en faisant sortir Button, c'est un moyen de relancer le championnat. Eh, vous avez vu, je suis en train d'inventer une théorie du complot, là. En live. Et donc, dans ce cas-là, ils gardent le contrat avec Red Bull. Et en plus, ils en profitent en même temps pour cartonner un Mercedes. Comme ça, Mercedes, il marque moins de points que Renault.
Et bon, d'autant plus... Et il demande à Mercedes que le Mercedes soit réduit en puissance pour l'an prochain.
C'est vrai que, enfin, Briator, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que, à la fois, je suis très heureux pour la F1 et pour, parce que c'est aussi le symbole d'un certain management, qui est pas forcément très sain à la Formule 1. On a Jérôme dans son message de répondeur qui cite le trio Briator, Todd et
Ron Dennis.
Je ferais quand même une différence entre toi, Ron Dennis.
Moi aussi, complètement.
Ron Dennis, pour moi, personnellement, reste quelqu'un qui, il a fait des erreurs, mais il reste quand même quelqu'un qui est dans la lignée, justement, des peut-être même plus que Ligier, Enzo Ferrari et compagnie.
Et des artisans qui sont devenus. Ouais. Moi, je compare et quand puis... même la carrière des trois gens. C'est Ron Dennis, il a commencé par être mécanicien quand même. C'est vrai. Il a gravi tous les échelons jusqu'à être team manager de McLaren. À l'image de Williams, tout à fait.
Oui.
Jean Todt, on l'a appelé pour redresser une Scuderia qui était, plutôt mal depuis 20 ans. Il l'a fait avec le succès qu'on connaît. Bon, certes, il y a eu des petites magouilles, voilà, comme il y a eu pour Ron Dennis. Briator, lui,
c'est ça le truc, c'est-à-dire que
il a été parachuté là et il a essayé de, je dirais, d'adapter la F1 à son style. Bon, il en a fait un sport business, quoi. Peut-être plus qu'Eccleston encore.
Oui, c'est pour ça qu'il est bien, il est très très peu très très pote avec Ecclestone d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Mais moi c'est justement la réflexion que je me fais sur Jean Todt, c'est que pendant que j'écoutais le message de Jérôme, il me disait pourquoi Jean Todt, puis après il me disait ah, c'est vrai, Jean Todt, il a quand même eu des trucs pas très nets dans sa carrière. Mais en même temps, les principaux faits d'armes de Jean Todt, c'est d'avoir demandé à un de ses pilotes de laisser passer l'autre.
Oui.
Il n'y a pas eu de gros cas de tricherie.
Parfois.
Oui.
Bah, par exemple, sur des déflecteurs latéraux, des choses comme ça.
Ça c'est pareil. Ça fait partie de toutes les équipes qui font ça, mais on n'est pas dans le plan machiavélique comme.
Oui. À l'époque de Jean Todt chez Ferrari, autant sur la piste, il y a pu avoir des comportements de Schumacher qui ont prêté à confusion. Du moins, qui ont été un peu douteux, des coups de volant. Je pense à Gérez en 97, je pense à son arrêt à la Rascasse à Monaco en 2006. Ça, c'est des gestes pas très beaux, mais en course. Mais surtout, à aucun moment, je pense qu'à aucun moment, de façon préméditée, ils ont mis en danger la vie d'un pilote, la vie de spectateur, la vie de commissaire.
Et c'est ça qu'il faut faire la différence. Il y a la différence entre ce que font toutes les équipes, et Eddie Irvine a dit cette semaine, toutes les équipes cherchent à contourner le règlement, à profiter des failles, etc., comme on l'a vu cette année avec Brown. Hein, Brown en est un très grand exemple. Et pourtant, on a une limite qui ne doit pas être dépassée, c'est la limite, du respect fondamental de la course. Et effectivement, Briatore n'a jamais eu le profil de quelqu'un qui respecte fondamentalement la course. Il a toujours eu des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations très communication. Et voilà. Et moi, j'aime bien en ce moment, c'est rappeler les propos d'Henri Pescarolo sur Eurosport la semaine dernière, quand on lui a demandé. On lui a dit, pensez-vous que Briatore est capable de faire ça? Et lui, il a dit, non, mais la question, c'est pas ça. C'est demandez-vous, on vous dit qu'en Formule 1, il y a un manager qui a demandé à un de ses pilotes de se foutre dans le mur pour faciliter la remontée de son leader. Posez-vous la question de savoir qui, en Formule 1, selon vous, est le manager qui ferait ça. Il y a eu un silence sur le plateau de l'émission, et Pescarolo a dit, vous voyez, on pense tous à Briatore.
Moi, je voudrais revenir 5 minutes quand même sur juste le fait de course, quoi, le fait de sortir. C'est, on peut dire, c'est honteux, franchement. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui a été demandé, mais stratégiquement, c'est génial quand même.
Ah oui.
C'est génial.
Eh, on connaît le talent de Pat Symonds, hein.
Eh oui. Et là, justement, j'arrive au deuxième point. Pat Symonds, je pense qu'il est bien responsable également d'une telle stratégie, quoi. Peut-être que, et comme moi c'est un peu le dialogue que j'ai voulu faire sur un de mes dessins, où Pat Symonds dit, on va faire une stratégie agressive pour Alonso, au cas où il y a une voiture de sécurité. Et là, t'as Briatore, ça a dû faire tilt dans sa tête en disant, ah ouais, pas con, autant le provoquer, quoi.
C'est perfide, c'est ça que je trouve terrible. C'est perfide, au-delà du simple fait horrible de demander à un pilote de se foutre dans le mur. Et, c'est un cas unique en Formule 1, je sais pas, mais en tout cas c'est exceptionnel en Formule 1. Mais prenez la NASCAR, ça a souvent été le cas, on a demandé à des pilotes de se crasher pour arranger les leaders, etc. En NASCAR, l'avantage c'est qu'on est dans une voiture fermée, il y a moins de risques, etc. Mais là c'est d'une perfidie, tout est fait, tout est manigancé. Les mecs ont organisé leurs mensonges jusqu'à le nier, mais fermement, jusqu'à balancer en conférence de presse, balancer comme l'a fait Briatore sur la sexualité de Piquet Junior. Mais ces mecs-là n'ont aucune dignité. Il y a déjà des tonnes de preuves qui s'accumulent contre lui, et il continue à nier, il continue à se croire intouchable.
Ouais.
Et c'est en même temps ce qui me réjouit, quoi, c'est de me dire, voilà, ce genre de mec, aujourd'hui, c'est fini. Mais en même temps, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, faut quand même pas oublier, c'est que ce genre de mecs, ils ont toujours leur place en Formule 1. Faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on a viré Briatore que tout d'un coup, la Formule 1 va devenir un paradis où il y aura pas de tricherie, où il y aura rien.
Ouais. Ouais. Et ma question maintenant est, quel avenir pour Piquet maintenant?
Lui, il y croit.
Lui, il y
moi,
croit.
Moi, sincèrement, je pense qu'on le verra plus jamais.
Ah bah non. Parce que toutes les équipes ont beau s'indigner et dire que c'est bien que justice était rendue. Ouais, mais ils accepteront jamais un pilote qui est prêt à vendre sa peau comme ça. Moi, je dis même, il devrait même pas avoir d'immunité. Et tout ce que j'espère, c'est que y ait un procès au civil, parce que ça se murmure. Et attention, là, dans ce cas-là, Briatore et Symonds risquent très gros, et Renault pourrait risquer gros aussi dans ce cas-là.
Et Piquet aussi.
Parce que
là, attention, il n'aurait pas d'immunité. Là.
L'immunité de la FIA n'a strictement aucune valeur auprès de la justice. Et d'ailleurs, il y a des possibilités qu'il y ait une action de justice qui soit faite à Singapour. Et la justice singapourienne sera pas forcément très accommodante.
Non. Sinon, quel avenir pour l'équipe? Parce que on se retrouve quand même avec une équipe Renault qui est décapitée.
Oui.
la perte de Briatore, c'est pas forcément une grosse perte. Par contre, Pat Symonds,
oui.
Ah oui, c'est quand même deux pertes. Enfin, Briatore, ça reste quand même quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui a un faut reconnaître, hein, il a un don pour la communication, pour attirer les sponsors, etc. Et dans cette période de crise pour Renault, surtout que Renault va perdre ING à la fin de l'année, pour retrouver des sponsors, ça va quand même être assez dur. Et moi personnellement, juste comme tu poses la question, puis que tu veux sans doute en venir à qui sera le nouveau patron, je pense que la bonne stratégie pour Renault, c'est de se recentrer, juste de remontrer que c'est une écurie française, de se réapproprier l'équipe, de nommer Alain Prost et de compter sur des sponsors français, d'aller chercher les sponsors français, quitte même à avoir son budget réduit, mais de compter sur Total, de compter sur tout un tas d'investisseurs français.
Donc toi, tu crois en la piste Prost?
Oh, moi j'y crois.
Apparemment, il a dit qu'il serait honoré.
Il y a cinq mecs qui ont été cités. Il y a Prost. Ouais. Il y a David Richards qui lui a dit qu'il n'y avait aucun contact.
Craig Pollock.
Il y a Craig Pollock, mais ça, j'y crois pas du tout.
Non. Ouais. Le patron de Hart Grand Prix.
Le patron de Hart Grand Prix. La sœur.
La rigueur, ouais.
Ce qui pourrait être pas mal. Et puis, il y a toujours l'hypothèse d'une promotion interne avec Bob Bell.
Ah, Bob Bell, ouais, ouais. Tout à fait.
Mais bon, est-ce que Renault va vouloir, moi je pense, je suis quand même convaincu que Renault, c'est le truc que je reprocherais à Renault. C'est que Renault, ça fait quand même quasiment 10 ans que Renault n'est que le sponsor de l'écurie. Ils en sont propriétaires, mais ça n'est que le sponsor.
Ah,
on n'a jamais caché le fait que Renault, c'était une écurie qui était entre les mains de Briatore, c'était Benetton, mais avec d'autres couleurs.
Est-ce que ça voudrait dire qu'en 2010, on pourrait avoir deux pilotes français?
Oui, oui, pourquoi pas. On peut très bien imaginer Bourdais, on peut très bien imaginer surtout Montagny. Moi, je pense quand même que Kubica, etc., c'est un pilote qui est plutôt pas mal, qui a une bonne image en Formule 1. Je pense que...
Oh, comme tu l'as pourri le week-end dernier, le dernier SAV, et là, tu dis c'est un pilote pas mal.
Ah non, je parle en termes d'image. Voilà. Le pilote me déçoit, mais le pilote dans sa globalité reste quand même une ultra bankable en Formule 1 et on sait très bien que dans l'équipe où il va aller, il va apporter d'abord des fans et puis il va apporter un coefficient sympathie qui sera bien supérieur. Donc vous voyez qui vous à la tête de Renault ?
Et Renault pourrait décider de se recentrer aussi en ne restant que motoriste. Hein.
Que motoriste.
Tout à fait. Mm. Ce qui serait en plus pour être beaucoup moins exposé.
De mémoire, Renault n'a pas encore signé les accords Concorde ou ils l'ont fait très tardivement.
Ils ont tous signé les accords.
Ils l'ont pas tous signé en se réengageant pour 2010.
Oui, oui.
Je ne suis pas sûr que Renault l'ait encore fait.
Non, c'était signature automatique pour.
Alors,
c'était
ils l'ont signé, mais eux, ils n'ont pas réaffirmé après justement la décision de BMW d'arrêter.
Ah, ils l'ont toujours pas fait.
Ils se disaient aussi que Briatore était en train de rechercher des acheteurs pour Renault justement.
Alors, ça pencherait plutôt d'ailleurs. Ça pencherait plutôt justement maintenant dans la théorie du maintien de Renault.
Bah, pas forcément.
Ah oui, parce qu'il n'y a plus Briatore, donc il y aura plus.
Oui, mais peut-être que Briatore a déjà préparé des pistes et ils ont des pistes justement. Donc c'est pas impossible qu'ils disent, bah on vend l'écurie et on ne reste que motoriste. Et après, si effectivement il reste en tant qu'écurie, est-ce que Prost est un bon choix? Est-ce qu'il a prouvé réellement qu'il avait les épaules pour être un bon team manager?
Beaucoup, je crois même que c'est Stéphane sur le blog qui avait tout entendu. Voilà, c'est pas forcément la bonne personne par rapport à Prost. Faut quand même séparer les deux contextes. Les deux contextes. Prost, c'était quand même un contexte très particulier où il s'était retrouvé embrinqué un petit peu contre son gré dans le projet Peugeot.
Non, on peut pas dire ça.
C'était quand même avant tout un projet franco-français. Lui était partant,
oui,
mais que
bah,
c'est un peu laissé déborder par le projet franco-français.
Non,
et puis
non,
au final, il s'est retrouvé abandonné par Peugeot et par tout le monde.
Oui, non, mais lui, quand il a repris Ligier, quand même, il avait le moteur Mugen Honda qui était très bon. D'ailleurs, l'année suivante, ce Jordan a gagné 3 Grands Prix avec, donc ils auraient mieux fait de le garder.
Voilà, non, mais c'est
l'idée de Prost a toujours été d'avoir un grand constructeur derrière lui, de préférence un grand constructeur français. Il y a Peugeot, bon, Prost voulait un peu un engagement de Peugeot sur 5 ans, Peugeot ne s'est engagé que sur 3 ans. Ça a toujours été son idée de faire une écurie franco-française quand même.
Oui, non mais on est bien d'accord, mais là le contexte est différent. On lui demande juste de revenir, si c'est lui à lui qu'on demande, on lui demande juste de revenir pour s'occuper, je dirais, de l'aspect sportif, de l'aspect management sur les grands prix. Après, je pense que Renault est suffisamment chargé en très bons commerciaux ou en très bons patrons pour faire un modèle à la Ferrari, c'est-à-dire un patron qui s'occupe des intérêts du constructeur de la branche Formule 1 et puis un patron qui est davantage chargé de la gestion de l'équipe, du recrutement des pilotes, etc.
Ouais.
Parce que je pense que le gros défaut de Renault, c'était justement d'avoir laissé beaucoup trop de pouvoir entre les mains
c'était évident.
Ah, ça, oui, carrément.
Il s'occupait à la fois de la gestion de l'écurie.
Il s'occupait de tout. Il avait le plein pouvoir.
De la communication et de tout.
Il avait les pleins pouvoirs. Et vous vous rappelez de McLaren qui voulait faire une écurie B, là, c'était quoi? Divix, un truc comme Div.
Directive.
Directive, voilà.
Enfin, il y a aussi Kuba et tout ça.
Bon, vous vous rappelez qui c'est qu'ils voulaient mettre?
C'était David Richards.
Non. avant? Qui est-ce qu'il voulait mettre? Et c'est question de mettre Jean, allez-y. Alors pourquoi pas Jean?
Oh non. Oh non, pas Jean, allez-y. Oh non. Bon alors, il y a un peu de bac à sable, mais maintenant tu peux foncer directement par les vibreurs.
Oui, mais au moins le bac à sable, ça fait moins mal qu'un mur.
Ah oui, quand même. Oui, tu me diras que là maintenant, il sera en terrain connu avec lui. On ferme ce dossier?
Fermons-le. T'as pas un son d'une porte qui se claque? Non, bon, bah tant pis.
Donc, autre actu qui a occupé notre petite période de vacances pendant ces 15 jours avant le Grand Prix de Monza, on a eu une annonce surprenante. On a appris que Santander sera le nouveau sponsor de Ferrari.
Ça, ouais, c'est une nouvelle.
Waouh!
Ah ouais, quelle nouvelle!
Moi, je pensais que c'était signé depuis au moins 2 ans, mais c'est pas... Ouais. Bon, par contre, la vraie nouvelle, c'est qu'on a appris qu'il serait aussi sponsor de McLaren.
Ça, c'est plus original.
Alors, en fait, ils seront sponsors de McLaren via leur filiale anglaise qui est ABI.
D'accord.
Donc, on aura...
Ça aurait fait bizarre, quand
on aura ABI...
Le même sponsor sur les deux voitures.
Ça n'a pas trop une odeur de sainteté, ça.
Non. Ah bah non, maintenant, oui, maintenant.
Il y en a qu'un qui a compris la blague.
Donc...
Oh, d'accord. Ça, j'ai fait un flop, là. Je suis vraiment déçu, là.
Une odeur de sainteté...
ABI.
Oui,
ABI.
Oui, non, mais ça, j'ai les vannes nulles, je les comprends, mais.
D'ailleurs, c'est pas ABI, c'est ABE.
Ouais, mais non, mais je dis ABI pour que tout le monde comprenne, mais oui, c'est ABE.
Ah bah, ça marche plus, ma blague.
Voilà, je tendais une perche pour Enzo. Voyons.
Ça fait 6 mois qu'on la prépare, ça.
Donc, ensuite, dans le rayon des. Alors, toujours dans les trucs un peu petits là par les cheveux, nous avons le rachat de Brown Grand Prix par Mercedes.
Ouais.
Non, merci Enzo.
Ils vont réussir à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec McLaren depuis 10 ans.
Voilà, alors c'est compliqué ce rachat parce que
oui.
Mercedes veut racheter Brown.
Oui.
Parce que, bon, ils en ont un peu marre de McLaren. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à la racheter alors que c'était apparemment leur objectif, qu'elle ferait l'affaire d'espionnage, et puis etc. Et puis qu'apparemment, en ce moment. Chez McLaren, on n'est pas non plus forcément très chaud pour accueillir un pilote allemand de pointe à côté de Lewis Hamilton. En tout cas, la famille Hamilton n'est pas très chaude pour ça. En même temps, ils sont chauds pour rien.
Je suis sûr qu'ils aimeraient bien Badoer.
Ah bah oui, ils les adoreraient. McLaren moins, mais je pense que... Attends, ils refusent même. C'est qui là qui propose? Raikkonen. Oh, Raikkonen. Oui, quand même pas refuser Raikkonen. Donc, alors le truc, c'est que... Le problème, c'est que McLaren a un contrat avec Mercedes d'exclusivité jusqu'à fin 2011. Et donc ce contrat, grâce à ce contrat, Mercedes ne peut pas acheter ou ne peut pas fournir des moteurs à qui elle veut. Il faut d'abord qu'elle ait l'accord de McLaren. Donc ce qui fait que quand elle a décidé de fournir des moteurs à Brown et à Force India, McLaren avait donné son accord.
Par contre, pour Red Bull, apparemment, elle était moins chaude.
Oui, pour Red Bull, c'est bizarre, là, tout d'un coup. Mais je pense que, après réflexion, je pense qu'elle regrette d'avoir donné son accord pour Brown. Et elle commence à voir un petit peu en travers les amygdales d'avoir donné son accord aussi pour Force India. Donc, le truc, c'est que McLaren n'a pas envie de perdre l'occasion, l'opportunité d'investir tout de suite dans Brown. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont demander à Abu Dhabi d'investir dans Brown, donc pour acheter Brown. Et donc, ça sera comme si eux, ils rachetaient, puisque de toute façon, Abu Dhabi, c'est 9% de... C'est le premier actionnaire de Mercedes, de Daimler, c'est le premier actionnaire à hauteur de 9%. Donc voilà, donc c'est les actionnaires de Mercedes qui vont acheter Brown, donc c'est grosso modo, c'est Mercedes, Mercedes le rachetant en 2012. Et ce qui est très rigolo, c'est quand même, ils ont dit à Mercedes, mais en 2012, vous pouvez continuer avec nous, hein. Il n'y a pas de problème. Ouais. Avec l'accord de Brown, on voudra bien vous vendre nos moteurs. Ou sinon, bien sûr, vous êtes libre d'aller voir un autre constructeur.
Mais alors, en 2012, Brown deviendra Mercedes.
Voilà. Alors, il se murmure que dès l'année prochaine, Brown aura une livrée légèrement grise avec un petit logo en forme d'étoile sur le capot moteur.
Ouais.
Ce qui était étrangement absent cette année. Enfin, c'est pas le capot moteur, c'est le capot, l'aileron avant. Et donc, on parle bien évidemment de Nico Rosberg qui irait chez Brown. Il a d'ailleurs admis aujourd'hui la théorie, même s'il a dit que McLaren restait une possibilité. Et donc, effectivement, à terme, en 2012, les investisseurs d'Abu Dhabi revendraient leur part de Brown à Mercedes et l'écurie deviendrait définitivement Mercedes ou Brown-Mercedes ou Mercedes-Brown.
Ouais. Pour ensuite quitter la F1 5 ans après, hein, puisque on sait que les constructeurs font comme ça, racheter une équipe, ils se barrent 5 ans après.
Oh, Mercedes, je sais pas.
Il y a quand même une question, c'est pour McLaren.
Bah oui, oui, voilà.
Après 2012, est-ce qu'il reste chez Mercedes? Est-ce qu'il change?
Bah moi,
mais dans ces cas-là, pourquoi?
Moi, j'ai une théorie.
Parce que, on est sûr, c'est que s'ils restent à partir de 2012, ils seront moteurs clients. C'est-à-dire qu'ils devront payer les moteurs Mercedes. Mais un truc qu'ils n'ont pas fait depuis 10 ans.
En plus, le truc qui est super dur.
Ça.
Et puis,
93. Ford.
Oui, ouais. Exact. C'est ce que j'allais rajouter, c'est que chez McLaren, le moteur client, c'est pas dans leur culture.
Mais moi, je...
À part Ford en 93, et après, faut remonter au tout début des années 80, c'était déjà Ford. Sinon, ça fait quasiment près de 30 ans que chez McLaren, c'est plutôt partenaire moteur.
Et ben moi, je parie sur un McLaren Ferrari. C'est mon rêve.
Une attaque.
4 voitures rouges. Donc ça, Ferrari, ils n'auront pas les 3 voitures, mais ils en auront 4.
C'est pas possible.
Non, c'est inimaginable. De toute façon, même, j'en veux pas. Je préfère garder mes moteurs.
Après, sur le marché des moteurs, il n'y en a pas tant que ça.
Bah, pour McLaren, il y a toujours l'hypothèse d'un retour. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué pour McLaren, c'est qu'ils vont devoir bien négocier ce qu'ils vont faire en 2012, parce que 2012, c'est la dernière année de contrat de Lewis Hamilton.
Oui.
Et sachant que peut-être que Mercedes ne re-signera pas, je pense pas que Lewis Hamilton se dira « je re-signe tout de suite ». Il va peut-être pas re-signer en 2010, il va peut-être attendre l'année 2012 pour voir vraiment ce qui se passe.
Il faut voir comment l'écurie va changer hein, d'ici 2012, voilà. C'est encore loin.
Si je peux me permettre quand même,
oui,
on est un peu loin là.
Oui, on est loin, mais,
ouais.
Mais
on est loin. On fait de la prospective.
Le SAV, monsieur Enzo, le SAV, c'est de la prospective. Nos clients, enfin nos auditeurs. Ah, je parle comme Briator, sors de ce corps. Ah. voilà, faut avancer un petit peu dans la prospective.
Donc soit ils vont chercher un moteur de quelqu'un qui est déjà là et qui sait, genre un Renault ou un Toyota qui partirait et qui resterait en tant que motoriste, soit ils réussissent à ramener un motoriste en F1.
Oui, il y a plusieurs
théories. Ce qui n'est pas impossible.
Moi je crois à Honda.
Non.
Ah oui, moi je crois au retour d'Honda en tant que motoriste.
Non.
En tant que motoriste.
Je crois pas.
Moi je crois. Et en plus, ça a bien marché. Je pense que si McLaren va voir par l'intermédiaire d'Ennis en disant, écoutez, Honda, vous êtes parti par la petite porte. On vous propose de revenir avec McLaren Mercedes. Enfin, McLaren.
Honda.
Vous revenez pas avec McLaren Mercedes. Hein. On renoue avec McLaren Honda. On ressuscite. On ressuscite. Bruno Senna. Enfin, non, Bruno Senna, il est vivant.
Il est vivant.
Oui, on amène Bruno Senna et on prend le fils Prost qui s'appelle comment
Nicolas,
hein. Bruno Nicolas. Senna et Nicolas Prost. Honda, ils sont obligés de signer.
Je n'y crois pas.
En rêve.
Sinon, il y a la possibilité que je t'avais dit, c'est que tout simplement, ça soit juste McLaren.
Ouais, mais alors, oui, écoutez cette théorie de. Cette
mais
théorie
non, de... c'est pas plus con qu'un autre. Il est plus con qu'une autre. Ça fait 40 ans qu'ils sont en F1, a priori, ils sont capables, s'ils se donnent les moyens, de créer un moteur.
Ouais, ouais. Enfin, c'est quand même deux choses différentes. Hein.
On est d'accord. C'est deux choses différentes. Mais ils ont l'expérience, les infrastructures, la taille.
T'es pas gentil. Le coup.
Non. Continue, Gigi, continue. Non, parce que Enzo me demande de lui donner un site où on retrouve des bruitages, mais je refuse. Je résiste pour vous, chers auditeurs, je résiste.
Bah, non, voilà, je vais pas m'étendre plus. Je sais bien que c'est sans doute pas la possibilité la plus probable, mais après tout, en solution de repli. Alors, bien évidemment, s'ils décident un truc comme ça, faut qu'ils se décident, j'ai envie de dire, presque tout de suite.
Bah oui.
Parce qu'un moteur, ça se fait pas en 6 mois. Mais je me dis, bah McLaren, ils ont l'expérience et le talent pour tenter le coup. Si jamais, ils veulent pas se tomber dans le coup, s'ils veulent pas récupérer un moteur client, quoi.
Du côté toujours de la valse des moteurs, on a toujours le feuilleton Red Bull. Vont-ils passer chez Mercedes? Vont-ils rester chez Renault? Ou alors, vont-ils reconquérir le moteur Ferrari? Nous ne savons pas. En tout cas, Matechiste casse du moteur Renault à Thierry Larigot. Christian Horner, le team principal de l'écurie, fait des compliments sur Renault pour dire derrière, oui, mais Mercedes, c'est bien aussi, et Mercedes, ils ont des bons moteurs et tout.
En même temps, il est qu'associé en course.
Voilà. moteur Ferrari, vous y croyez, vous, pour Red Bull?
Je me dis que Red Bull a peut-être trop d'ambition pour récupérer un Ferrari. Dans le sens où, souvent, Ferrari moteur client, ça a rarement marché.
Non, mais faut arrêter. Ils avaient un moteur Ferrari, ils ont fait des pieds et des mains pour refiler le moteur Ferrari à Toro et récupérer le Renault. Voilà. C'est pas maintenant pour récupérer le truc. C'est tout ce que j'avais à dire.
Bien. Non, ça va être... Donc, du côté de Renault, c'est bien sûr Renault Rest. On évoque aussi la piste Williams. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Mais attention, Williams a balancé une bombe cette semaine. Oui, Williams songe à reprendre le vieux moteur Cosworth.
Non.
Ouais.
C'est pareil, tu vois. C'est un peu comme Red Bull qui reprend le Ferrari, tu vois. Reprend le Cosworth, j'y crois pas trop. Vu comment ils l'ont jeté au bout d'un an.
Limite, les mecs, ils ont supplié Toyota de devenir motoriste client pour se débarrasser du Cosworth. Ils vont repasser au Cosworth. Quoique, attention, l'année prochaine, le Cosworth pourrait être avantageux.
Ouais, enfin, c'est comme le coup des V10 la dernière année. Oh, vous vous rendez compte, ils risquent d'être plus rapides et tout.
Ouais.
Waouh. C'est vrai qu'elles ont tout défoncé, les Toro Rosso, cette année-là, avec leur vieux V10.
Ensuite, justement dans la catégorie de moto, on parlait de Mercedes, on a appris aujourd'hui qu'on allait vous savez que les moteurs sont gelés, mais des fois les moteurs on les sort du congélateur, on les laisse congeler et on les remet au congélateur juste derrière.
tout ça c'est venu de la superbe prestation des moteurs Mercedes.
7 moteurs Mercedes aux 8 premières places, c'est ça?
Ouais.
Comme quoi Red Bull, n'empêche, Red Bull, ils ont raison de prendre le Ferrari. Le seul moteur qui rivalise avec Mercedes en ce moment, c'est Ferrari. Et puis on a eu deux grosses nouvelles cette semaine. Enfin, qu'est-ce qu'on a comme grosses nouvelles en ce moment? On a eu le comeback. L'année prochaine, en 2010,
le Piquet.
Mesdames et messieurs, imaginez.
Oui, c'est vrai.
En 2010, vas-y, je sais que ça te fait plaisir.
Vas-y. L'an prochain, il y aura Ferrari, il y aura Williams, il y aura McLaren, et il y aura Lotus.
Et il y aura Manor.
Ouais, mais on s'en fout.
D'accord. Oui, il y aura Lotus. Et potentiellement, Sauber.
Ouais. Mais c'est pas nouveau, Lotus.
Ouais, non, on a jamais... Justement, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est pas nouveau.
C'est bien pour ça que c'est pas nouveau.
Non, mais Lotus, ils sont revenus déjà en 95 avec Pacific. Pacific avait le logo Lotus. On sait pas pourquoi, d'ailleurs.
Oui, mais là, le truc, c'est que c'est vraiment Lotus, puisque Lotus appartient à Proton, qui est le premier constructeur automobile malaisien. Et c'est la Malaisie, et via Proton, qui rachète...
En fait, c'est le retour de Lotus sans être le retour de Lotus.
Voilà, c'est pas la Lotus de chez Lotus...
Voilà.
Avec Chapman.
Dans les années 80, donc il y avait Lotus, et donc après la mort de Chapman, ça, on va dire, ça a été divisé en deux. Ouais. Il y a Lotus F1 qui a continué jusqu'au milieu des années 90, et aussi via, comme tu l'as dit Enzo, via Pacific, mais même avec Pacific ça a pas duré longtemps, ça s'est arrêté au milieu des années 90. Voilà, et il y a Lotus Cars donc qui elle n'est pas restée indépendante, qui a d'abord été vendue à General Motors dans les années 80 et qui a été ensuite revendue à Proton.
Voilà.
Et donc c'est Proton avec Petronas et le gouvernement malaisien donc qui a décidé de faire ce projet-là en utilisant le badge Lotus.
Et attention, ils ont de grosses ambitions parce que ils n'ont pas engagé n'importe quel ingénieur. Ils ont engagé l'ingénieur l'ingénieur c'est Harry Potter. C'est le mec quand il arrive dans une écurie, il fait des veaux. Mais le jour où il part, les voitures cartonnent. Cet ingénieur, c'est Mac Gascoigne. Le mec est quand même allé chez Renault. Quand chez Renault, il était chez Renault, les Renault faisaient rien. Il est parti, Renault a cartonné. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai que après, bon, Renault a arrêté, mais il n'est pas revenu. Après, il est allé chez Toyota. Là, chez Toyota, ça s'est pas très bien passé. Les Japonais, ils étaient pas très contents de la manière dont il fonctionnait. Ils trouvaient qu'il lui demandait beaucoup trop de temps. Ils l'ont viré. Tout d'un coup, les Toyota ont commencé à faire des petits résultats. Elles ont pas gagné, mais elles ont fait des résultats. Hein. Après, il est allé chez Force India. Rappelez-vous, Gascoigne chez Force India, à l'époque où Force India se battait pour la 19e place. Il part, il est viré durant l'hiver dernier et il revient là chez Lotus alors que Force India cartonne cette saison.
Conclusion, virer Mac Gascoigne.
Voilà, engager Mac Gascoigne, virer
le 6
mois et puis voilà, c'est bon. C'est un mec, il est terrible. Cette année, son objectif, c'est d'être la meilleure des 4 équipes. Il a commencé avec 6 mois de retard sur les autres, mais il va être le meilleur.
Et c'est pas impossible, bon, on sait pas à quoi elle va ressembler, mais c'est pas impossible qu'elle soit noire et or.
Oui.
Les Lotus. Pourquoi? Parce que, une des couleurs, de la Malaisie, parce que le but aussi c'est d'avoir une voiture malaisienne, notamment les couleurs d'un habit traditionnel. Et je me rappelle avoir vu au jeu des athlètes malaisiens porter ces couleurs, c'était aussi noir et or. Donc ça
comme,
serait à la fois
comme le Lotus de la grande époque.
Voilà, ça serait ça pourrait être à la fois la référence au Lotus de la grande époque et aussi référence à la Malaisie. C'est pas sûr, hein, c'est une supposition vraiment personnelle.
C'est une exclusivité. Tu nous affirmes qu'en 2010, les Lotus seront noirs et or. Merci d'info. Donc, retour de Lotus. Enzo, t'as pas entendu sur le retour de Lotus, t'es comment?
Vouloir faire revivre une vieille écurie qui a... Je veux dire, c'est... Ouais, on utilise un vieux nom qui a toute une histoire, etc. Mais... je sais pas, moi ça me laisse assez sceptique.
Ouais, mais enfin c'est un peu comme ProDrive qui voulait revenir à Aston Martin, ça a quand même plus de gueule Aston Martin que ProDrive. Là,
Aston Martin n'a pas d'histoire en F1.
Oui, non mais même là Lotus a quand même plus de gueule que Proton.
Oui.
Peut-être, mais je pense
plus,
que vouloir
en plus possède la marque depuis plus de 10 ans, donc c'est pas non plus complètement illégitime.
Toujours vouloir vivre avec cette histoire. Je veux dire, c'est aux nouvelles écuries de se construire une image, de se construire un nom, de se construire une légende. Moi, j'ai un peu l'impression que, au travers de cette reprise du nom Lotus, on veut concurrencer directement Ferrari, un peu comme Jaguar, Ford a voulu faire avec Jaguar, en disant on va mettre un nom qui en impose, histoire de.
Je pense pas que ce soit une histoire de mettre un nom qui en impose. Je pense que dans l'esprit des gens, Jaguar, ça fait quand même plus F1 que Ford. Aston Martin,
Non, je suis pas d'accord. Ford avait quand même un
historique. Ford, ça fait plus F1.
Aston Martin, je suis désolé, mais c'est les 24 heures du monde.
C'est pas question. Vous vous jugez par rapport à l'historique. Et c'est vrai que vous êtes très fort en historique, etc. Moi, je suis nul en historique et ça permet d'avoir un point de vue différent. Vous jugez par rapport à l'historique. Mais pour un constructeur aujourd'hui, la F1, c'est l'excellence. Donc, dans ce cas-là, autant donner le nom de sa gamme d'excellence. Donc, dans Ford, quel est l'intérêt pour Ford de prendre le risque de se casser la gueule avec son écurie en appelant Ford? Autant dire Jaguar, de toute façon Jaguar ne perdra jamais rien à se viander en Formule 1 comme ils l'ont fait. Et donc, en plus, ça véhicule l'image d'excellence. La F1, c'est l'excellence, donc on donne un nom d'excellence.
Moi, je pense que c'est surtout justement pour arriver à être tout de suite connu, quoi. Et si tu veux, ça leur donne moins de boulot, entre guillemets, de se construire une image. Ils l'ont déjà, l'image.
Mais...
C'est facile. Je le reproche pas, mais ça me fait pas rêver.
Oui, mais indirectement,
cette histoire de Lotus.
Indirectement à des gens, qui voulaient appeler l'équipe Brabham juste en prenant le nom comme ça, eux, ils en sont propriétaires du nom Lotus. C'est les propriétaires de Lotus Cars, on va quand même pas leur dire.
Depuis 10 ans.
Voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont propriétaires de Lotus Cars, c'est leur nom. Et ils prétendent pas être Lotus des années 80, ils prétendent juste dire, voilà, on s'appelle Lotus. Et c'est nous-mêmes qui faisons en tant que fans le rapprochement. Mais je pense bien évidemment que ça va leur servir et bien évidemment que eux, ça va les aider à percer, à trouver des sponsors. Bien évidemment que ça en fait partie, il faut quand même pas oublier qu'on est dans un sport où il y a énormément de communication et que ça fait partie de la stratégie de communication. Après, je pense pas qu'ils aient les mêmes prétentions que Lotus ou qu'ils se voient comme les descendants de Lotus, à part McGascoyne.
Peut-être.
Donc on disait Lotus, on disait aussi Sauber qui pourrait revenir, elle est revenue, on sait. Puisque Sauber a été racheté par un fonds d'investissement, c'est pas un fonds d'investissement, mais c'est une association suisse qui gère les intérêts et les capitaux d'investisseurs
Moyen-Orient.
Voilà, Quackback. L'écurie donc s'appellerait Sauber, elle s'est vue attribuer la 14e place par la FIA, ce qui signifie que en cas de renvoi d'une écurie ou de départ d'une écurie, Sauber reprendrait la place, notamment principalement avec un moteur Ferrari semble-t-il, et la direction de Peter Sauber. Sinon, on évoque aussi la possibilité de demander l'accord aux autres équipes pour qu'il y ait 14 équipes l'an prochain.
Moi, je pensais que ça posait un problème point de vue stand, ça.
Bah oui, moi c'est pareil.
Ouais.
Par exemple, à Monza, je sais pas où ils vont mettre les mecs, parce que déjà Monza, les mecs sont super serrés comme des.
Donc je vois. T'imagines à Monaco
Oui, à Monaco. À Monaco, ça va être terrible.
Ouais, à Monaco, ils ont fait les stands. Hein. Il y a de la place maintenant, hein, quand même.
Il y a 28 box à Monaco.
Il y a pas 28. Oui, si. Oui.
Ah, il y a 28 box.
Ah, il y en a. D'accord.
Je les aurais pas mis, moi, les 28 box. Donc, pour finir cette actualité, je voudrais revenir sur deux pilotes. D'abord, des nouvelles de Felipe Massa qui est repassé sur le billard pendant 4h30 pour se faire refaire le visage.
Ah, ouais,
voilà.
Ah, il y a du boulot. Hein.
Oui, voilà. C'est vrai qu'il était pas mal escarté. Il y a quand même un... On l'a senti là en Italie avec la potentielle arrivée de Fernando Alonso, peut-être chez Ferrari.
Ça n'est plus qu'une question de temps.
C'est quand même exceptionnel que Ferrari n'ait pas annoncé ses pilotes.
C'est vrai.
Oui.
Lors du Grand Prix de Monza.
Donc voilà, pour Alonso, les clés c'est Raikkonen. Est-ce que il va rester? Est-ce que Ferrari va vouloir lui faire confiance un an de plus? Surtout combien ça va coûter à Ferrari? Parce que je pense que le calcul de Ferrari c'est ça. Puis surtout c'est l'énigme Massa, puisque même si Massa arrête pas de se dire dans la presse, oui je reviens en décembre, etc.
Mais à quel niveau?
Voilà, à quel niveau? Ouais. Quel niveau performance, etc.
Et jusqu'où ira la loyauté de Ferrari vis-à-vis de Felipe Massa s'ils s'aperçoivent qu'il a perdu une seconde au tour en janvier ou février quand ils vont le tester?
Voilà.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, c'est leur pilote, mais bien sûr, elle a été accidentée au volant d'une Ferrari. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le garder à tout prix, quoi. Hein.
Puis le gros problème pour eux, c'est que ça va être un hiver qui va être très très studieux parce qu'ils ont vraiment besoin d'accumuler des données sur la voiture cet hiver pour pouvoir se remettre dans le droit chemin. Donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'attendre un pilote qui sera pas à son, ou de reprendre un pilote qui sera pas forcément à son top? Je suis pas sûr.
Moi, je crois que le fait qu'ils ont, qu'ils aient désigné Fisichella maintenant pour le remplacer et ensuite de lui offrir le poste de pilote de réserve, c'est qu'ils se sont dit au cas où on aura toujours Fisichella.
Autre pilote que je voulais vous évoquer, c'était Sébastien Bourdais.
Oui.
Voilà. Sincèrement, non.
Non mais c'était juste pour avoir.
Non, mais ça en vaut même pas le coup. Je veux dire, il a fait, oui, ok, il participe au machin des trucs du foot. En plus, c'est du foot, donc on s'en fout. Mais il a gagné la course, la troisième course qui dure 10 tours, où forcément c'est en ordre inversé par rapport au précédent. Donc il est parti dans les premiers ou quatrièmes. Bon, il a gagné au bout de 10 tours, forcément. Ceux qui sont plus rapides n'ont pas le temps de le rattraper en 10 tours. Donc excuse-moi, mais moi ça prouve rien sa victoire, c'est tout.
Non mais c'était pas pour revenir sur sa victoire, c'était juste pour vous dire, est-ce que selon vous la Super League Formule 1 pour un pilote de Formule 1 est un bon moyen de rebondir avant de revenir en Formule 1?
Non.
Ok.
C'est pour occuper ses week-ends, il aurait pu se mettre au golf.
C'était juste que je voulais demander.
Non mais je pense que sa victoire, bon il en était content, bah, d'accord, mais bon franchement c'est pipeau quoi. Il aurait gagné les trois courses du premier week-end, ok. Mais là, la dernière, en plus, sur 10 tours, je te dis, c'est...
Non, mais justement.
C'est vrai que c'est la Super League Formula, quoi.
En même temps, tu peux pas non plus dire ça. Il est quand même parti cinquième et il gagne. Donc, tu peux pas non plus dire, il a doublé quelle voiture. Mais après, tu dis que derrière, en même temps, il n'y a aucun mérite parce que, grosso modo, il était devant, donc il n'a pas pu se faire doubler. Mais il a quand même doublé quatre voitures et puis derrière, les mecs n'ont pas réussi à le redoubler. Donc c'est quand même,
bah oui, parce qu'il y avait que 10 tours. S'il y avait eu 10 tours de plus, il aurait fini 10e, parce que tous les 10 derrière lui, il l'aurait doublé.
Maintenant, ils sont que 6 en finale.
Non, mais bon, franchement, cite-moi un pilote connu qui fait partie de la course ou de la courbe.
C'est ça le problème.
Adrian Vallès. Non, mais c'est pareil, attendez, arrêtez les gars. C'est aussi une formule de promotion, vous parlez de pilote connu, c'est aussi une pilote de formule de promotion.
Justement. Il a plus rien à foutre dans une formule de promotion. Il est triple, quadruple champion IndyCar et il a fait de la F1. Mais qu'est-ce qu'il va foutre dans une formule de promotion?
Qu'est-ce que tu veux? Alors vas-y, donne-lui des conseils de carrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre?
Du golf.
De l'endurance.
De l'endurance, mais ça, de l'endurance, ça t'entretient pas toute ta saison.
Mais non.
WTCC.
Mais il est.
Tu vois bondé en WTCC, toi.
Pourquoi pas?
Il est fini. Il est fini.
Il est bien en Super.
Il est fini. Allez, je préfère.
Trophée Andros.
Trophée Andros. Et c'est bon, c'est pas l'Impros ni Olivier Panis.
Pourquoi pas?
Mais il a encore l'âge de revenir en Formule 1, les mecs. Il a même pas 30 ans.
Mais il a rien prouvé. Non, déjà, il a plus de 30 ans.
Et Bourdais, il a 30. Et par rapport à Barrichello, il peut toujours revenir. Je suis désolé.
Oui, mais il a, Barrichello, il a commencé, il avait 19 ans, hein, la F1.
C'est pas ce que je te dis, mais je te dis pourquoi tout de suite le condamner pour la Formule 1 et dire qu'il est
pris,
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est de s'entretenir, et je trouve que c'est son mérite, de s'entretenir dans une formule qui est peut-être pas très glorieuse, mais en même temps, c'est pas non plus la Formule 1, puisque la Formule 1, ça a quand même 60 ans d'histoire. La Super League Formula, c'est sa deuxième saison. Faut peut-être déjà laisser sa chance à ce championnat. Effectivement, peut-être que, en attirant des pilotes un peu comme Bourdais, etc., d'anciens pilotes de Formule 1, même s'ils ont été virés de la Formule 1, faut arrêter de penser que les mecs en dehors de la Formule 1, c'est tous des merdes. C'est pas tous des merdes. Pas parce qu'un mec, il a pas réussi en Formule 1, que c'est une merde. Voilà. Et donc, il peut très bien.
Je suis d'accord avec toi.
Peut très bien revenir dans une équipe, peut-être pas l'année prochaine, mais dans le futur, revenir dans une équipe pour ses qualités de mise au point, etc.
D'accord. En attendant, moi, alors, il a pas sa place dans le SAV de la F1. Parce que c'est pas le SAV de la Super League Formule 1.
Mais non, parce que c'est le SAV de la F1, on parle de tous les pilotes de Formule 1. Et je vous parlerai d'ailleurs de Juan Pablo Montoya.
Oh non, pitié.
C'est mon troisième pilote, puisque Juan Pablo Montoya, qui a quitté la Formule 1 il y a 3 ans pour aller vers le NASCAR, est en course pour le titre cette saison. Il est qualifié pour le titre. Ouais. Ils seront 12 à se disputer pour le titre. Et actuellement, il est 4e au classement général.
Et Jean Alési?
Jean Alési, on n'en a rien à foutre.
Et il y a Mansell aussi qui va monter dans une voiture.
Mais il n'est pas en train de monter pour le moment, Mansell. Là. Jean Alési, il fait pas de course pour le moment. Puis ils vont pas revenir.
Il est de mauvaise foi.
Mais sérieusement, ils ont pas l'âge de revenir. Montoya, on en a parlé pour qu'il puisse revenir. Notamment, il y a eu des rumeurs par rapport à William. Je suis pas mauvaise foi, je suis désolé. On peut quand même parler d'autres pilotes et s'ouvrir un petit peu au reste du sport automobile.
Non, je suis borné, je ne regarde que Ferrari et la F1.
Voilà. Ça c'est certain. Donc, on en finit avec l'actualité, je voudrais passer à ma petite question actuelle qui passe inaperçue. Un peu à l'image de la semaine dernière.
Le jingle.
Alors, oui, j'en ai un en plus.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actuelle qui passe inaperçue. Youhou, l'actu, où es-tu?
tout est bruitage de maison. Donc j'ai une nouvelle question, alors vous connaissez le principe, pas de Google, donc vous fermez Google, vous fermez Mozilla Firefox, Internet Explorer et compagnie, c'est fermé messieurs, je vous fais confiance?
Oui.
Ouais. Donc attention, voici ma question. Pour quelle raison Nicoli Corporation a-t-elle pu se réjouir lors de ce Grand Prix d'Italie?
C'est une société italienne.
Non.
Bah oui, avec un nom pareil.
Ah non. Ah bon.
Il fabrique des pièces
c'est
de
F1. C'est un sponsor?
C'est une société qui possède la propriété de quelque chose, mais c'est pas un sponsor de la piste. Voilà, je pense d'ailleurs que il se serait pas passé ce qui s'est passé que j'aurais jamais su que c'était ça.
Est-ce qu'ils sont propriétaires de la piste?
Ils sont pas propriétaires de la piste. Ça a aucun rapport avec la piste, ça a aucun rapport avec les infrastructures ou quoi que ce soit. Ça a même aucun rapport avec la F1. Je pense qu'ils ont aucun intérêt en Formule 1. Mais il se trouve qu'ils ont bénéficié.
Est-ce qu'ils ont quelque chose qui se trouve juste à côté du circuit de Monza?
Non.
Et il y a eu un incident de course qui fait qu'on a vu leur logo ou quelque chose?
Alors, on n'a pas vu leur logo, on a vu leur produit. On a vu un produit qu'ils éditent.
Qu'ils éditent?
Ouais, ouais.
Ils éditent des logiciels.
Non.
Enfin, ils éditent des livres.
Quoique, ils en font des logiciels maintenant. Et ils en font aussi des livres. Donc, je rappelle la question. Pour quelle raison Nicoli Corporation, une société, a-t-elle pu se réjouir lors de ce Grand Prix d'Italie? Qu'est-ce qui lui a fait de la pub, indirectement?
L'accident de Hamilton?
Non.
C'est un fait de course?
C'est pas un fait de course.
Le fait qu'on parle de Renault?
Aucun rapport avec ça a un mince rapport avec Renault, mais aucun rapport avec Renault.
C'est un rapport avec une personne qu'il y avait pendant le Grand Prix?
Oui.
Ah oui, c'est là, ça reste là.
Et quelqu'un qui
un
est
pilote?
Pas là d'habitude.
Un pilote.
Physique est là.
Barrichello?
Pas Barrichello. C'est ni Barrichello ni Physique est là. Il est beaucoup plus jeune.
Sutil.
Ah, je sais.
Oui.
Luigi,
Luigi. Ni Sutil ni Luigi.
Ah. Vettel.
Vettel, oui, c'est un rapport avec Vettel.
C'est par rapport à l'an dernier.
Essayez de trouver déjà ce que produit.
Premier des vainqueurs en titre.
Essayez de trouver déjà ce que produit Nicoli.
Bah, tu m'as dit des livres ou.
Alors,
ouais.
On en trouve aujourd'hui en logiciel, on en trouve aujourd'hui en livre, mais à la base, non, c'est pas des livres, c'est pas. Ils ont la propriété de quelque chose.
Un site web?
Pas un site web. Mais on en trouve sur des sites web spécialisés.
Des images, des photos, des logos, de musique, de la musique.
Ça n'a aucun rapport avec tout ce que vous venez de dire. Je vous dirais même que c'est l'aspect ludique.
Un jeu vidéo.
Pas un jeu vidéo.
Un jeu.
Un jeu.
Ah, Vettel s'est amusé avec un jeu.
Ouais.
Style un Bill Bokeh ou...
Je peux même vous dire que c'est pendant les essais, comme il faisait pas beaucoup de kilomètres pour préserver son moteur, il a joué avec quelque chose.
Avec un Rubik's Cube.
Pas
avec
un Rubik's Cube. C'est pas techniquement un jeu joué.
Un jeu de réflexion? Un Sudoku ou une connerie comme ça?
Sudoku, Nicoli Corporation, c'est eux qui possèdent la propriété intellectuelle du Sudoku. Hein, c'est une société japonaise. Et il s'avère que pendant les essais du vendredi, comme il avait rien à faire pour plaisanter avec les journalistes, Vettel s'est montré dans le stand en train de faire des Sudoku, en train de faire des mots croisés, de lire un roman, voilà, et... Donc voilà, moi je me dis voilà, c'était ma petite anecdote que je retenais de ce week-end, cette petite actu qui passe inaperçue, c'est Vettel qui fait du Sudoku.
Eh ben 2-0 pour moi quand même.
C'est toi qui avais découvert, je sais même plus quoi.
Je pense, ouais.
Donc on va tout de suite passer à la course, à la qualification. Pole position de...
Lewis Hamilton.
Mais Sutil... pour Force India.
Sutil aurait pu la faire. Hein.
Oui. Il aurait pu la faire. Alors à noter... Point historique à noter, qu'il n'y avait que 871 millièmes entre le premier et le 19e. Alors à savoir que, c'est en Q1, hein, et à savoir que ce sont donc des écarts infimes, et qu'il n'y avait jamais eu moins d'une seconde entre deux pilotes si éloignés sur la grille depuis que le système de qualification actuel, en trois phases, a été introduit en 2006.
Ah ouais.
L'an dernier, le plus faible écart entre le premier et le 19e avait été constaté au circuit du Mont Fuji. Il était de 1 seconde 218. Voilà. Oui. Donc c'est donc la première pole de Lewis Hamilton, la deuxième pole cette saison et sa première pole à Monza. Donc Lewis Hamilton, c'était un petit peu attendu quand même de voir les voitures équipées du Kers si proches.
Forcément, oui, avec ses longues lignes droites.
Ouais, voilà.
Et c'est pas pour autant qu'elles ont creusé le trou par rapport aux autres.
Non, qualité. Voilà. Mais c'est en plus, c'est ça qui était le gros problème qu'avait évoqué Hamilton, c'était que le problème à Monza, c'est pas trop d'utiliser le Kers, parce que ça, le Kers, ils s'en servent. Mais le problème, c'est de le recharger.
Bah oui.
Et apparemment, sur certains tours, il disait, on n'avait pas le Kers à plein, parce que, il y a certains freinages, c'était pas suffisant pour recharger tout le Kers. Donc, deuxième place, Adrian Sutil. On est passé quand même une deuxième fois à côté de l'exploit, vous l'avez dit.
Ouais.
C'est vrai que ça a été chaud, je sais plus pourquoi il a...
Non, en fait il a stoppé un tour rapide alors que...
Oui, c'est vrai. Voilà,
il était en tête à la fin du second partiel et il a cru qu'il était en retard et il a stoppé alors que...
Donc la preuve que c'est pas seulement le pilote mais que la voiture aussi, on avait dit que Fisichella se transcendait avec la Force India, mais bon apparemment la Force India...
Il y a une double explication, il y a celle qui a été donnée notamment par les commentateurs, c'est vrai que...
Quoi, cette voiture, tu crois les commentateurs maintenant?
Mais sauf que eux n'en ont donné qu'une.
Oui, voilà.
Oh, il y en a, alors qu'il y en a deux.
Exclusivité, SAV.
C'est vrai que cette voiture, elle est entre guillemets moins perfectionnée, donc elle a moins d'appui. Donc dans les circuits où il y a beaucoup d'appui, c'est moyen. Mais là, bien évidemment, à Spa et Monza, c'est avec ses longues lignes droites, il n'y a pas besoin de beaucoup d'appui.
C'est vrai.
Ce qui fait que cette voiture sait se servir et sait exploiter ses gommes avec peu d'appui. Donc ça, c'est l'explication qui a été donnée et qui est sans doute vraie. Mais faut pas non plus oublier que depuis à peu près le début de l'été, et ça a pas commencé à Spa, souvenez-vous les émissions du SAV avant, on a souligné que cette Force India, elle avait vraiment fait un bond en avant à partir de l'Angleterre. Vous vous souvenez, ils avaient fait plein de changements parce qu'en plus, ils n'étaient pas très loin de l'usine.
Oui.
Et un peu à l'image de un peu le copier-coller de ce qu'avait fait l'an dernier Toro Rosso, hein.
Voilà.
À Monza.
Une montée en puissance et puis effectivement des bons résultats sur la fin de saison.
Alors certes c'est ponctuel, mais faut pas non plus négliger et dénigrer le boulot des gars de Force India qui ont vraiment vachement bien amélioré cette voiture.
D'ailleurs Sutil lui affirme que ils seront pas autant aux avant-postes que ce qu'ils étaient là lors des deux derniers Grands Prix, mais que ils pouvaient être régulièrement en Q3 pour les derniers Grands Prix.
Oui, on va les revoir comme on les a vus, donc avance pas, je pense vers le milieu de plateau, peut-être à essayer de jouer les points. Sauf que s'ils ont su bien accumuler l'expérience de ces deux derniers Grands Prix, peut-être que là les points au lieu de les rater et de les voir filer sous le lit, ils vont peut-être réussir à les avoir.
Ensuite, troisième, Kimi Raikkonen, avec un réservoir. Donc les deux premiers étaient quand même assez assez pleins. Je crois qu'il y avait
assez léger.
Oui, assez léger. Excuse-moi. 14 tours, je crois, pour Lewis et 16 pour Sutil. Et Raikkonen, je crois que c'est 19 tours qu'il avait, donc il commençait déjà à être un peu plus chargé en essence, avec le Kers. Voilà, c'est pas sa meilleure qualif, il avait été deuxième, je crois, à Monaco, c'est ça?
Non.
Non, pas bon.
Non, je crois pas.
Ça mérite vérification du jury.
Oui. Troisième, c'est ce niveau global de la Ferrari, hein.
Oui, voilà.
Plus ou moins, voilà, troisième, cinquième place, capable de jouer des podiums.
Et Dieu sait qu'ils en ont joué un bout. Enfin, ils n'ont pas vraiment joué. Ils ont attendu que le jouet tombe. Quatrième, alors attention, quatrième, c'était Kovalainen, qui lui était le plus plein des pilotes et avec le Kers. Au point que même Norbert Haug a dit, attention, notre pilote qui a le plus de chances de l'emporter, c'est pas Lewis, c'est Eki Kovalainen.
Ouais, mais sauf
c'est
que
quand
c'est...
même témoigné d'une grande confiance envers Eki Kovalainen, puisque
ouais, on connaît les courses d'Eki hein, depuis le début, depuis deux ans, donc voilà.
Donc magnifique pole, pour moi c'est peut-être même l'homme de, enfin pas magnifique pole mais magnifique qualif. C'est peut-être même l'un des principaux pilotes de la qualif, parce que effectivement il est parti très plein avec le Kers.
Yannick, gloire t'en soit rendu, Kimi est bien parti second à Monaco.
Vous avez vu, je suis nul en histoire, mais dans ce qui concerne la saison qui vient.
Non, en cours.
Oui, ben oui, c'est bon. j'ai la tête tout retournée par tes petits sons.
Ah oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait.
Alors, ouais, c'est bizarre, je sens que je vais en avoir un dans les deux minutes qui viennent. Gracias. Donc ensuite, 5e, 6e, les Browns.
Ouais.
Mieux qu'attendu il y a encore quelques semaines, mais dans la lignée de ce qu'elles ont pu montrer
ça remonte,
en Belgique.
Voilà, dans l'ordre inverse, une fois n'est pas coutume.
Oui. Il y a clairement maintenant une inversion de la hiérarchie et du momentum entre les deux pilotes, ça c'est certain. Même si on a retrouvé un Button bien plus confiant et bien plus cinglant qu'avant.
Oui.
À noter, tu le citais tout à l'heure, Enzo, tu citais Liuzzi qui est parti 7e.
Bah, c'était son retour en F1.
Magnifique.
Magnifique. Et puis voilà, cette Force India, bah, c'est pas que Sutil, on l'a vu physiquement. Ah, Liuzzi aussi, ça marche.
C'est, Sutil, il a pas piloté depuis le début de l'année les essais de cet hiver. Il débarque sur la.
Attention, il a fait quand même un simulateur.
Oui, non, mais je suis d'accord. Prends l'exemple de Fisichella, qui a conduit toute l'année, qui vient sur Ferrari, qui a fait du simulateur de Ferrari, et tu vois la différence. Moi franchement, il m'a épaté, quoi.
D'où ma question. N'est-ce pas Liuzzi qu'il fallait prendre, quitte à prendre un pilote qui soit vierge de tout a priori sur la voiture, donc du Kers, etc., qui n'ait aucune, entre guillemets, marque à prendre, pourquoi ne pas prendre Liuzzi plutôt que Fisichella?
Eh ben non, pour une bonne raison, celle que j'ai expliquée tout à l'heure, pour 2010, au cas où Massa ne ferait pas le poids.
Tu crois vraiment Fisichella en 2010 titulaire chez Ferrari?
Mais si jamais, Massa, c'est au cas où.
Ouais, mais au cas où, il y a quand même mieux comme plan, comme au cas où.
C'est un vainqueur de Grand Prix. Mais tu peux pas demander à un pilote qui est, Liuzzi, il a pas piloté depuis un an et demi. Il attend qu'une chose, c'est d'être un nouveau titulaire. Tu peux pas demander à un pilote de venir chez Ferrari au cas où. Ça sera trop tard en janvier ou février quand on s'en rendra compte. Tous les bons pilotes sont pris, il y en aura plus sur le marché.
Non, mais par exemple,
vaut mieux prendre un pilote qui sait que c'est ses derniers grands prix et que l'an prochain il sera sans doute à la retraite ou pilote de réserve, mais au moins qui a toujours un bon niveau. Donc je pense que c'est un bon choix et je pense que c'est vraiment l'idée qu'ils ont derrière la tête.
Donc ensuite. Je passe sur le 8e parce que je me rappelle plus qui c'est, donc c'est que ça m'a pas traumatisé.
C'est que juste Alonso.
C'est pour ça que je me rappelle m'être posé la question. Est-ce que je note Alonso? Je me suis dit, de toute façon, Alonso, je l'ai ni vu de la course, ni vu de la qualif, ni vu du week-end.
Non, mais c'est quand même un pilote qui a le casse. Derrière les autres pilotes, derrière Ferrari et McLaren, alors qu'ils ont le casse, eux aussi.
Sinon, 9e, 10e, Vettel-Weber. Alors moi, là, j'avais une question, parce que alors, ça fait deux émissions que je voulais vous poser la question, et puis je vois que ça a été mentionné par Vettel. Ma question, c'est simple, c'est est-ce que dans leur tête, Red Bull n'aurait pas mieux fait de faire le calcul, de se dire « Bon, il nous reste que deux moteurs pour 6 Grands Prix, c'est pas grave, prenons le risque de nous faire pénaliser quand on a cassé un moteur et de prendre 10 places, prenons le risque, mais au moins faisons des essais, développons au maximum la voiture, c'est comme une voiture qui a besoin d'être réglée, plutôt que de se contenter de faire 3-4 tours d'installation et d'arriver le jeudi, on fait une qualification ». Calamiteuse parce que c'est quand même loin du potentiel réel de la Red Bull et au final pas pouvoir toucher la voiture jusqu'au dimanche et au final au dimanche tu te retrouves avec une voiture qui est totalement anonyme. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait comme Vettel le dit maintenant, ben voilà, on compte plus les moteurs, si on est pénalisé on est pénalisé, maintenant faut jouer le tout pour le tout.
Pour reprendre ta question, en fait je me suis posé la question moi en Belgique, Vettel, il était mal placé, il était combien sur la grille de départ? Non, il était pas trop mal placé. Il était 8e, mais c'est surtout Button qui était 14e. C'est là, moi, que j'aurais fait le pari après les qualifs, en voyant que Button était de loin.
Tu changes de moteur.
De dire, on change de moteur, on en prend un 9. Et là, on perd 10 places, mais on n'est pas si loin
voilà.
De Button. Et je pense qu'ils auraient dû jouer le coup, là.
Et c'est là où je pense qu'il y a le petit truc stratégique qui manque encore à Red Bull pour être une
grande équipe. Ouais, ils leur font un Pat Simon. Ah bon,
ouais. Un Brown.
Un Brown.
Voilà, pour en prendre des vraies références.
N'empêche qu'il n'y a plus que lui maintenant comme grand stratège en F1.
Bah ouais, ouais, voilà. Ouais.
Oh putain,
elles vont être chiantes les courses.
Ils se sont mis dans une position quand même super compliquée, quoi. Même avec un moteur neuf, 10 places de pénalité, vous voulez faire quoi après?
Oui, mais au moins, tu sacrifies une course, mais sur les autres, tu profites de, entre guillemets, de ta pseudo, ou même à la limite, ils programment, ils savent très bien, par exemple, que, à Suzuka, ils seront moins bons que les Brown, de se dire, bon, bah, dans ce cas-là, autant sacrifier cette course-là, on changera le moteur-là.
Et eux, ils savaient qu'ils seraient mauvais à Monza, donc ils auraient pu le faire à Monza, quoi.
Donc c'est ça qui est étonnant, c'est le principe du sacrifice aussi, c'est ce neuvième moteur, faut peut-être l'utiliser aussi de façon intelligente. C'est-à-dire, voilà, quand on n'a pas le choix, faut trouver une stratégie qui inclut le neuvième moteur et qui limite la casse, parce que moi je reste quand même persuadé qu'ils vont quand même sortir le neuvième moteur d'ici la fin de saison.
Ah bah ils vont
avec les forcer, circuits qui arrivent, avec les circuits qui arrivent, c'est impossible. Ils ont déjà plus de moteur neuf. Leurs deux derniers moteurs, ils ont fait Monza. Alors en plus c'est ça, je comprends pas quoi. Quand ils voient Vettel qui malheureusement pendant la course peut pas faire grand chose. Il récupère un point mais c'est au petit bonheur la chance. Est-ce qu'ils ont pas intérêt à ce moment-là de se dire bon bah écoute, tu rentres au stand, on préserve ton moteur, ça sert à rien qu'on l'use à Monza, t'es 12e, ok, et par contre ton moteur on te le garde pour la suite. Est-ce qu'ils ont pas intérêt à ce moment-là de se dire voilà, on rentre, puis on voit ça pour plus tard.
Mais ils ont peut-être limité les tours pour pas le trop poussé, tirer
dessus. Oui, peut-être, mais dans ce cas-là, autant directement s'arrêter. Je vois pas quel intérêt de limiter les tours. Tu uses le moteur, il fait quand même le même kilométrage.
Mais moi, justement, j'aurais fait ça un jour où justement, à un moment où ils avaient vu que leur adversaire était en situation délicate, j'en aurais profité. Alors, d'un autre côté, tu peux dire, au contraire, il est dans une situation délicate, il faut faire le maximum pour lui en foutre plein la vue et prendre des points un maximum. Ça se défend aussi comme stratégie.
C'est ce qui a fonctionné en Belgique.
C'est ce qui a fonctionné en Belgique, puisqu'il a marqué 6 points quand même et Button était au tapis. Mais bon, à un moment, il va falloir qu'il fasse un choix, ça c'est évident. Et bon, ça serait, disons que moi ce que je regretterais, c'est que le titre mondial se joue au dernier Grand Prix sur une casse moteur.
Ouais, voilà.
Ça serait dommage.
On finit la qualif là juste en mentionnant Grosjean 12e, pas mauvais, surtout que on a vu pendant ce Grand Prix que découvrir le Kers comme ça en plein milieu de saison sur Monza, c'était pas facile. À la fois Grosjean et Fisichella ont eu des difficultés et Grosjean s'en sort plutôt bien avec une voiture qui est pas franchement très habituée au Kers.
Non.
Il fait 12e donc c'est pas mal. 14e justement, Fisichella, qui prouve que la Ferrari est quand même une voiture très très dure à piloter, surtout quand on n'a pas ses repères. Voilà, ouais. Lui il a dit hein, le vendredi, j'ai passé mon temps à regarder les boutons, à réapprendre les boutons parce que les volants sont totalement différents et tout, et que
il en a fait déplacer même.
Oui, et en plus il avait dit que pour lui le plus important c'était le samedi matin, c'était là que commençait son week-end, ce samedi matin il allait pouvoir aligner les temps. Malheureusement, il est sorti. Donc il a raté quasiment la moitié de la séance, donc il a pas pu préparer sa voiture. Donc on passe à la question historique.
Oui.
Oui. Donc je vous lance le petit jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Donc, alors messieurs, je vous ai préparé pas une question, ça j'ai été inspiré par les autres, je vous ai préparé plusieurs questions.
Aïe aïe aïe.
Oh là 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 là.
Et je me suis dit, je vais tenter le truc. Je me suis dit, comme on est en Italie, je vais vous tenter le quiz italien. Oh. Donc, ça va être des questions sur l'Italie, en italien.
Ah non, pas en italien.
Alors, tout de suite, je m'excuse auprès de ta mère hein, si je fais des fautes d'accord. Ça fait des années que j'ai pas fait d'italien, donc je m'y remets peu à peu.
D'accord.
Donc, prima domanda. Oh, le mec qui se la pète.
Première question.
Chi sono i tre piloti che hanno vinto a Monza?
Quels sont les trois pilotes italiens qui ont gagné à Monza? Alboreto?
Non.
Ascari?
Ascari, oui, en 1951-1952.
Bandini?
Bandini, non. Non, non, c'est super facile, les mecs, là.
Attends. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit Ascari, Farina?
Ah, Farina, oui, il y est, en 1950.
Ah, d'accord.
Et le troisième,
Farina, Ascari, et le dernier.
Alors, le troisième, je pouvais même vous dire l'année, puisque c'est 1966, et ce fut d'ailleurs sa seule victoire en Grand Prix, à domicile.
Ah, c'est... Non, je sais plus en nom.
Donc, le troisième, vous trouvez pas?
Non. Non. Comme ça.
C'est Scarfiotti.
Scarfiotti, c'est.
Ah. Voilà. Hein, donc Scarfiotti, donc ça fait un point pour Yannick. Yannick contre le reste de la bande.
Ah, d'accord, c'est ça le, d'accord, ok, bon, admettons.
Seconda domanda.
Deuxième question.
Per quale ragione il Gran Premio d'Italia non si svolgeva a Monza nel 1980?
Pour quelle raison le Grand Prix d'Italie ne s'est pas passé à Monza en 1980? Parce qu'ils ont refait la piste.
Non.
Parce qu'ils ont modifié la piste, c'était en travaux?
Ah, moi j'ai une raison, hein. C'est
bah, même la raison. Il n'y a pas eu de Grand Prix d'Italie?
Oui, il y en a eu un. Hein. Il a eu lieu à Imola.
D'accord.
D'ailleurs, le seul Grand Prix d'Italie qui a eu lieu à Imola.
1980, à cause des écologistes.
Non, il n'y avait pas d'écolo à l'époque.
Je sais pas.
C'est sur la volonté du Commendatore, qui voulait que au moins une fois dans l'histoire de la Formule 1, il y ait un Grand Prix d'Italie qui se passe sur le circuit qui portait le nom de son fils Dino.
D'accord.
Puisque le circuit d'Imola s'appelle le circuit Dino et Enzo Ferrari.
Maintenant et Enzo, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu, je me suis rendu compte sur des vues aériennes du circuit qu'il y avait un golf à côté du... Je sais, vous en foutez.
Bon. Ah non, mais ça, non mais, alors ça,
non,
ça
mais
sera...
je me suis dit, le jour où j'irai voir Monza, j'irai faire le golf.
Bah ouais.
Dunque, terza domanda. Chi fosse l'ultima pilota italiano ad essere sul podio?
Quel fut le dernier pilote italien à être sur le podium? Un podium de Monza, on est d'accord. Hein.
Podium de Monza.
Parce que sinon...
Fisichella?
Attends, que j'ai un doute. Parce que
ça peut être Trulli?
Non. Attendez, j'ai un doute pour Fisichella. Je ne pense pas, mais j'ai un doute pour Fisichella. Mais cherchez tout de même. En indice, c'est un pilote Ferrari.
Oh, c'est pas Larini. Non, mais bah c'est Alboreto. Hein.
Alboreto, si.
En 88 à la mort de un jour après la mort d'Enzo Ferrari, voilà. Il était deuxième après derrière Berger.
Deuxième pour le doublé Ferrari.
Et c'est la seule victoire Ferrari. Les 15 autres ont été gagnés par McLaren cette année.
Donc voilà. Donc je vous accorde le point. Donc ça fait 2-1. Sachant que je mets quand même des réserves pour Fisichella. Mais de toute façon, quand vous avez mis Fisichella, ok. Quatrième question. Cela, t'assure, je ne sais pas dire quatrième en italien. Je crois que c'est quarta. Perché il podio del Gran Premio d'Italia 1951 fu particolare?
Pour quelle raison le podium du Grand Prix d'Italie de 1951 fait particulier? Il n'y avait que des pilotes Ferrari sur le podium.
Non. Que des Italiens?
On réfléchissait à ce qui peut être particulier sur un podium.
Mais ils étaient quatre, ou que deux.
Ils étaient quatre.
Ils étaient quatre?
Mais oui, alors je sais pas si c'était quatre physiquement sur le podium, mais il se trouve que dans les statistiques, vous êtes quatre pilotes sur le podium. Vous avez d'abord Ascari qui emporte la course devant Gonzalez, son Ferrari, doublé Ferrari. Et vous avez Fangio qui est troisième. Sauf que Fangio, il a abandonné au septième tour.
Ouais.
Parce que son moteur a lâché. Et en fait, c'est son coéquipier, Felice Bonetto, qui lui a donné sa voiture. Et donc, dans les statistiques, on estime que Fangio a acquis la troisième place, mais que comme c'est avec la voiture de Bonetto, bah, Bonetto a aussi acquis la troisième place. Donc, il y avait, théoriquement, quatre pilotes sur le podium.
Ouais, je suis pas sûr que ça se... Putain, si, c'est vrai, quoi. Mais c'est pas possible, c'est complètement stupide. Ah non, en fait, c'est la... Voilà, en fait, d'après StatF1, c'est la voiture. Donc, la voiture finit troisième. La voiture numéro 40 finit troisième et elle a été conduite pour 50 tours par Bonetto et pour 29 par Farina.
Voilà.
Et c'est.
Ouais. Et les deux pilotes ont marqué des points.
Ouh.
Alors attention, cinquième question. Mm-hmm. Perché Mario Andretti et Gilles Villeneuve non hanno ricevuto loro trofei alla fine della gara di 1978?
Pour quelle raison Gilles Villeneuve et Andretti n'ont pas reçu leur trophée à la fin de la course 1977
alors qu'ils ont fini premier et deuxième?
Ils ont dû partir précipitamment?
Non.
Non, ils ont boycotté la cérémonie?
Non.
Ils ont eu un accident et ils n'étaient pas blessés.
Ils auraient pu monter sur le podium, mais ils ne sont pas montés sur le podium.
Ils n'ont pas voulu monter sur le podium?
Ils auraient bien voulu, mais ils n'ont pas pu.
Parce que la course a été envahie et ça a été trop tard. Ils sont arrivés en retard. Mais là, je vois pas.
Vous donnez votre langue au chat?
Oui. Enfin,
au gâteau.
Si.
Si. Alors, tout simplement, c'est tout simple. Hein. Ils ont juste été pénalisés après la course. Ils ont chacun pris une minute pour départ anticipé. Et donc, c'est Loda et Watson qui héritèrent des deux premières places.
Ah, d'accord. Okay.
C'est-à-dire qu'ils ont donné les pénalités dans la foulée, ils n'ont pas attendu 3 jours comme aujourd'hui.
Voilà, ils ont donné tout de suite derrière. Voilà, donc, ils ont pris une minute, ils étaient plus premier deuxième, ils devaient être plus loin derrière. Et donc, alors qu'ils ont fini premier deuxième de la course, ils ne sont pas montés sur le podium, ils n'ont pas reçu leur trophée. C'était une question piège, ça fait 3-1 pour Yannick. Yes, yes, yes. 3-2. Je rends à César ce qui appartient à César. Attention, question suivante. Che cosa aveva di particolare il podio del Gran Premio d'Italia 1960?
1960, qui avait le podium particulier. Trois pilotes Ferrari.
Tout simplement.
Ouais.
Phil Hill, Ginter et Meres. C'est la seule fois dans l'histoire où il y a eu à Monza trois pilotes Ferrari sur le podium. Donc ça fait 3-3. 3-3.
Si.
Alors en plus, celle-là est longue. Giancarlo Fisichella è il primo pilota italiano a condurre una Ferrari a Monza da Ivan Capelli nel 1992. D'accordo?
Mm? Oui.
Ma quante volte hai condotto una Formula 1 sotto le colore italiane a Monza?
En comptant celui-là?
En comptant celui-là.
Trois fois.
Shinji?
J'ai même pas compris la suite de la question.
Alors combien de fois c'est la première fois qu'il conduit
pour
Ferrari à Monza, mais pour la combienième de fois il conduit pour une écurie italienne à Monza quoi.
À Monza.
Donc toi et les autres t'as dit 3 fois.
2 fois.
Eh ben non, c'est 5 fois.
Minardi, Benetton.
Il a piloté pour Ferrari en 2009 où il a fini 9e. Il a piloté 4 fois pour Benetton.
Ah, mais moi, je croyais des écuries différentes, moi.
Non, c'est des écuries...
Tu comptes Benetton comme italien?
Ah oui, ils étaient italiens, Benetton.
Ah, ils étaient italiens. Ils étaient italiens. Donc, Benetton en 2001, où il a fini 10e, en 2000, où il a fini 11e, en 99, où il a abandonné, et en 98, où il a signé la 8e place.
Et Minardi.
Et Minardi, il n'y a jamais piloté, puisqu'il a été remplacé en fin de saison 96 par d'autres pilotes qui venaient avec la valise.
Oh,
donc il n'a pas piloté pour Minardi. Donc il a piloté que pour 2 écuries.
Donc
et
c'est Cindy qui a raison.
Non, parce que moi j'ai dit, attention, combien de fois il a piloté sous les couleurs italiennes.
Ouais, mais ta question...
Pas avec combien d'écuries, j'ai dit combien de fois. Donc, messieurs, on passe à la course?
Si.
Hey.
Alors, victoire de Rubens Barrichello. qui interrompt par conséquent la belle série de 6 vainqueurs différents en 6 Grands Prix, puisqu'il avait gagné à Valence.
Il fait chier, hein.
Ouais, ouais. Égoïste.
Alors que physique est là.
Qui c'est qui aurait pu gagner? Bah, Kovalainen.
Physique est là.
En physique, là, il partait trop loin, il partait 14e. Mais Kovalainen pouvait gagner.
Ouais.
Donc voilà, Ruben Barrichello, des commentaires,
Papy fait de la résistance. Non, non, mais.
Ouais.
Et si c'était cette année-là?
Oui, bah, ça commence à, il y a que 14 points d'écart maintenant au championnat pilote, donc oui, ça, il peut y espérer. Puis, il a, en ce moment, il a clairement la niaque et la motivation et le matériel autour de lui, hein, parce que.
Ouais. En plus, vu que l'équipe est quasi assurée du titre, c'est bon, quoi, ils peuvent laisser les pilotes.
Voilà, ça aurait été moins facile pour lui si Vettel était encore en course ou Weber, mais là du fait que Vettel et Weber soient quasiment exclus de la course.
J'ai un chiffre inutile à vous proposer.
Ah, intéressant.
Ouais.
Le chiffre inutile d'Enzo, 1h30 après, non, le chiffre inutile.
Non, c'est pas un chiffre inutile, c'est un score inutile.
Ouais.
Si je vous dis 3 à 2.
C'est pas, ça ferait 3, non, j'ai rien dit.
Et je vais en profiter, je vais faire, on va en faire un quiz. Moi, sincèrement, je pense que le titre, il échappera pas maintenant à Brown Grand Prix. Et reste à savoir si ça va faire 4 à 2 ou 3 à 3.
C'est pas un truc genre, le plus jeune ou le plus vieux de l'équipe, ou alors le numéro 1 qui gagne, le numéro 2 qui gagne à la place du numéro 1 de l'équipe?
Non. En fait, ce sont les, pour, comme l'année dernière, le duel va se résumer à un duel Brésil-Angleterre. Et actuellement, le score est de 3 pour le Brésil, 2 pour l'Angleterre. Alors, est-ce que vous pouvez me retrouver les 5 finaux, du moins les 5 championnats qui sont terminés avec un Brésilien en premier, un deuxième, un Anglais et inverse? Et dans quel sens?
Massa Hamilton 2008.
Oui, voilà. il doit y avoir Mansell Senna en 80, non pas 92, mais peut-être en 80.
Avec Victor pour qui?
Bah, à l'avantage de Senna, donc ça va être 88, 89.
Non, 91.
91.
Senna qui s'impose devant Mansell. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il va y avoir du piqué là-dedans.
Voilà.
Ah oui, voilà.
Ça, c'est qui?
Mansell.
Oui, en quelle année?
86.
Ah, pas loin,
87.
C'est Prost qui était champion du monde.
Alors moi, je connais pas les années de titre, moi.
Et les deux derniers, c'était comme cette année 2008-2009, c'est deux années qui suivent.
82-83.
Oh non, plus loin.
64, attends, en anglais. Ouh, alors ça c'est les années 60.
Alors, je vais même vous dire, c'est le même duel. C'est
ah
le
ouais
même duel. Oui. Contre qui?
Fittipaldi, ça va être contre, en anglais. C'est contre, Jackie Stewart,
Oui.
Oh la vache. Oh.
Et l'année suivante, c'est?
Contre, l'autre, c'est,
L'année suivante, c'est Stewart contre Fittipaldi qui
s'est. Ah d'accord. Et voilà. Ah, c'est un bon chiffre inutile, ça.
Oui. Il est loin d'être inutile.
Oui, voilà. C'est le chiffre inutile, c'est le chiffre utile de la course.
Donc, Button va-t-il égaliser à la fin de l'année?
Non, voilà, Barrichello, sur la course. Solide, voilà.
Solide. Il a bénéficié de la stratégie des Brown qui était la meilleure, ouais, voilà, finalement.
Métronome, comme Button, hein, ils ont tout. En fait, moi, c'est-à-dire que j'ai du mal dans cette course à dire bravo à Barrichello plus qu'à Button. Les deux ont fait une course phénoménale, quoi.
Ouais.
Voilà, le seul truc, c'est que voilà, Barrichello était devant Button. Alors, je sais pas ce qu'a pris au commentateur de nous dire Button favori. Non, il est derrière Barrichello. Si Barrichello passe devant, lors de la course, c'est pas vraiment changé. Ils sont sur une stratégie quasiment identique. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un rebondissement et qu'on demande à Barrichello de laisser passer Button, mais...
Tout simplement parce qu'il croit pas en Barrichello, hein.
Oui, voilà.
C'est moi, je trouve que c'est c'est peut-être le premier de la saison où je trouve, franchement, c'est un magnifique doublé. Parce que c'est un doublé où quasiment les deux pilotes gagnent pour moi.
Oui, mais c'est pas avec panache comme les premiers Grands Prix de la saison, quoi.
Non, moi, c'est vrai. C'est très stratégique.
C'est une bonne stratégie.
Je suis pas d'accord. C'est une bonne stratégie, mais il faut quand même, face aux voitures avec le Kers, à Monza, qui est, il colle quand même pas mal de temps, hein, comment s'appelle, Lewis en qualification et tout. Il pile bien. Ils font quand même une super course, sachant qu'ils ont le plein, ils ont pas le Kers.
Autant, si tu veux, Lewis aurait gagné, on aurait dit oui, ben il a pas lâché pendant toute la course, il a fait chaque tour comme un tour de qualif, et c'est pour ça qu'il a gagné. Autant eux, si tu veux, derrière, bah on n'a pas eu l'impression qu'ils aient à forcer sur leur voiture pour faire gagner cette stratégie à un seul arrêt, si tu veux. C'est dans ce sens-là qu'elle m'a pas ébloui, quoi, cette stratégie, quoi. Mais forcément, une stratégie à un arrêt est forcément moins impressionnante. Alors, je vous explique pas l'an prochain quand il y aura plus de ravitaillement.
Arrête.
Mais, non, t'inquiète pas, ça se passe très bien.
Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque, hein. Tout le monde préfère, parce que faut quand même remarquer que même maintenant en Q3, les mecs il y a certains, les mecs qui pensent qu'ils vont pas jouer la pole, donc là c'est pas difficile. Les 6 derniers de la Q1. Oui. Donc à partir de Kovalainen, les mecs ils se sont bourrés à craquer jusqu'au 30e tour. Ils ont rempli tout le réservoir.
C'est-à-dire en passant l'an prochain, sous réserve qu'ils soient encore dans une écurie de F1, Barrichello sera le seul pilote à avoir connu les courses sans ravitaillement. Encore un avantage pour lui l'an prochain.
Ouais, mais là quand même. Sérieusement, une question comme ça. S'il est champion du monde Barrichello, vous pensez qu'il va continuer ou qu'il arrête?
Il continuera.
Continuera? Toi, Shinji, tu penses qu'il continuera?
Moi, le contraire, je pense que limite, pour arrêter, ce serait le top.
Moi, je pense aussi, lui qui, ça fait des années qu'il court derrière le titre, je pense qu'il s'arrêterait là. Voilà.
Et puis... Moi, ce qui m'épate, c'est toutes les rumeurs qu'on a sur Brown Grand Prix, quoi. Visiblement, c'est pas dit que Button reste, c'est pas dit que Barrichello reste.
Bah, je pense que Button dans l'air, ce qu'il a surtout, c'est que Button, il sait très bien qu'il y a un partenariat qui se glisse là avec Mercedes.
Ouais.
Et que Button, il sait très bien qu'il a un contrat, qu'il a revu la baisse et qu'il veut surtout le renégocier. Et il dit, j'adorerais vraiment rester, mais bon, ça dépend pas seulement de moi, etc. Mais je pense que Button, il va rester, il y a pas de problème. C'est juste de la négociation salariale avec, il va retrouver son salaire d'il y a encore l'année dernière, hein. Il a quand même beaucoup, beaucoup réduit son salaire, hein.
Ouais.
Même s'il avait convenu un contrat en 3 ans, donc cette année il rognait beaucoup sur son salaire, je crois qu'il doit gagner 4 ou 5 millions, et puis que l'année prochaine il passe à 10 millions, et que dans 2 ans il passe à 20 millions. Mais je pense que s'il a statut de champion du monde, il va essayer de négocier un peu plus. Donc voilà, Kimi 3ème.
Bah, il a eu du bol, comme, enfin, la place sur le podium.
Comment tu peux dire ça?
Il a été opportuniste. Il a été au bon endroit au bon moment.
Oui, voilà. Enfin, sinon, il aurait quand même fini 4e. C'était bien quand même, mais là, c'est mieux.
Ouais, bah, ça fait quand même beaucoup plus joli un podium avec un pilote Ferrari dessus.
Oui, surtout.
Oui, ça rajoute une touche de couleur. J'ai quand même été épaté quand même d'entendre les tifosi crier comme ça. Qui, mi.
Ouais.
Non, mais je pense que c'était des Finlandais.
Peut-être.
Comme quoi, quand même, le public italien est quand même très versatile, parce que ça fait
Oui.
Mais quelque part, cette victoire de Barrichello, c'était aussi une victoire Ferrari.
Oui. Bah d'ailleurs, il a gagné deux fois à Monza avant ça.
Ouais.
Et en plus, il a gagné en 2002 et 2004, les années où Ferrari domine. C'est lui qui gagne à Monza. et puis de toute façon, lui, il avait dit que c'était un plaisir de piloter ici et que voilà, pour lui, ça restait l'un de ses circuits préférés parce que il avait connu Monza en tant que pilote Ferrari et que ça s'oublie jamais et que t'as un lien avec le public et ouais. Puis ça se voyait, hein, parce qu'il a été fêté et puis il a fait un show sur le. C'est quand même, c'est incroyable. Enfin, c'est moi, je l'aime bien parce qu'il est rafraîchissant quand tu le vois, son comportement sur le podium.
Oui, des fois t'as l'impression qu'il pète un plomb, quand même.
Oui, mais il pète. Mais c'est ça qui est agréable. C'est un mec et voilà, il est naturel, il vit. Et c'est ce que je disais. C'est le truc qu'apportent les Brésiliens. Je le disais ça dans la dernière mission. Ils apportent un truc, les Brésiliens, c'est incroyable. Notre 4e Sudil.
Très belle course.
Très belle course.
Ouais, voilà. Ouais.
Malheureusement, bah, il est un peu à l'image de Fisichella, il se retrouve derrière Kimi. On y a cru un peu en fin de course où il est vraiment revenu et puis il semblait menaçant et il semblait pouvoir passer plus que d'ailleurs Fisichella
t'as quand même un phénomène d'aspiration à Imola qui est à mon avis, voilà. Ça joue encore plus qu'à Spa, quoi. Donc,
c'est ça où entre guillemets, l'avantage du Kers est un demi-avantage, parce que de toute façon, avec le Kers.
Mais le Kers, c'est une arme défensive aussi.
Oui, voilà.
Oui.
C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup été critiqué cette saison, c'est que le Kers, au final, qui avait été fait pour dynamiter les courses, il a au contraire eu tendance à, une fois que les pilotes Kers se sont mis aux avant-postes, immobiliser les courses. Donc, cinquième, Fernando Alonso. Voilà, je l'ai noté juste parce qu'il était cinquième. Je n'ai pas de souvenir de sa course, mais est-ce que vous avez un détail
assez transparent quand même.
Sixième, Heikki Kovalainen.
Voilà, on l'a dit, hein, voilà, une course typique.
Voilà, ça me fait mal pour lui, parce que là, en plus, c'est vrai qu'il a, là, pour le coup, il a une bonne opportunité, il a une stratégie qui peut être plutôt bonne, et il ne concrétise pas, donc là, j'ai beau aimer le pilote, j'ai beau le supporter, là, je ne lui trouve aucune excuse.
Ouais, il n'en a pas.
Septième, Nick Heidfeld, juste pour dire que c'est un pilote BMW.
Et il partait 15e.
Au taquet. Alors attention, 8e, Sébastien Vettel. Merci qui ?
Merci Lewis.
Merci Lewis.
Oui. Enfin, un point. Un fini point. Quand même.
C'est bien.
Un peu perdant par KO, mais pas de la course.
Non, là c'est clair. Après la course, c'est quand même l'impression qu'on a, c'est que les championnats sont pliés.
Oui.
On sent déjà il y a des règlements de compte là par rapport à Renault, Matechis couvre sa gueule, Horner qui dit qui commence à faire des flatteries à Mercedes, il y a quand même déjà une petite atmosphère d'analyse de la défaite. Et même déjà, je dirais le fait que Vettel dise bon bah maintenant on peut se permettre de prendre le risque de prendre une pénalité, c'est peut-être déjà le signe de bon maintenant faut qu'on
a plus rien à perdre.
On a plus rien à perdre. Ouais. Donc c'est peut-être Quand on commence à dire on a plus rien à perdre, c'est qu'on commence déjà à se résigner à l'idée de perdre.
Et c'est des fois là que on sort le grand jeu. Et...
Ah oui.
Oui.
Neuvième Fisico, il sauve, il se montre mieux en course.
Ouais.
Hein. Bon, même si comparé à comme tu disais, Heidfeld qui part 15e et qui arrive 7e, mais bon Fisico pour une première course, c'est pas trop mal. Je note Lewis 12e.
Oui,
Il est classé, hein.
Il est quand même classé 12e.
Puisqu'il a abandonné dans les 5 derniers tours, donc il est classé.
Bah, il a fait une belle course, hein.
Il a fait une belle course.
Il lâche pas le morceau, hein.
Un peu à l'image de l'an dernier, quand même. Très, très offensif, très attaquant. Il a réalisé, si je me trompe pas, il a réalisé tout au long de son premier relais, tous ses tours ont été des tours de qualif. Bon, en même temps, c'est facile, il a le Kers. Il était plus léger, il a le Kers. Mais c'est vrai que faut quand même le faire, de jamais se tromper à rien. Enfin, jamais se tromper. Je pense qu'on y reviendra sur... Ensuite, 15e, j'ai noté Grosjean, mais il a été défendu par Lionel Froissart sur Eurosport, donc ce qui est un signe que peut-être c'est justifié.
Moi, je pense qu'il a suivi les mêmes cours de com' que Sébastien Bourdais.
Bon, en même temps, c'est vrai que c'est quand même dur pour un pilote qui a à peine pris ses marques dans une Formule 1, il redécouvre une nouvelle Formule 1 avec le Kers. Donc c'est des tout nouveaux repères, c'est des toutes nouvelles manières d'utiliser la voiture.
Bah, surtout qu'il marche pas, le Kers.
Ouais, voilà.
Oui.
Ça l'a pas aidé. 17e, j'ai noté, pas parce qu'il est 17e, mais parce qu'il aurait pu être beaucoup mieux. C'est Vitantonio Liuzzi. Abandon sur transmission. Ça m'a fait mal au cœur.
Ah, moi aussi.
Il réalisait une putain de course. Le mec, il revient, ça fait un an et demi qu'il a pas piloté. La seule fois où il a piloté, c'est pour Toro Rosso. À l'époque de Toro Rosso où c'était pas top. Et il revient et il te fait une course chez lui où il a peur de rien, il n'est pas stressé, il est comme tout le monde à domicile, mais tu le sens pas, il fait pas de boulettes,
aucune erreur.
Il a fait un très bon week-end, il a été
d'entrée de jeu passé en Q3 déjà.
Oui.
Ouais, voilà. Ouais.
Ouais, ouais.
Et puis donc 20e, Weber qui je sais pas moi son accident ça m'a fait rire. Le fait qu'il finisse tanké face au mur là, dans un bac à sable en pente, je suis désolé.
Mais y a pas de mal.
Donc pour vous Weber et Vettel c'est mort.
Ouais.
Ouais.
La okay. Raison ouais oui.
Donc messieurs on passe maintenant à la partie motivation de notre émission. On passe aux rubriques. À commencer par le fait marquant de la course.
Donc le retour en grâce de Kimi Räikkönen qui avec 16% des voix finit second.
Arrête de fumer.
C'était qui déjà ce retour en grâce de Kimi? Ah,
c'est moi et aussi une de... Je sais plus qui c'était, un auditeur.
De Iceman Air. Bah oui, ouais. Bah ça peut être que Iceman Air.
Donc le retour en grâce de Kimi Räikkönen, 57% avec 13 votes. Avec 13 000 votes, pardon. Deuxième, le beau résultat d'ensemble de Physique Hello, 17% avec environ 4.
De Physique Hello.
J'ai dit quoi?
C'est du Physique Hello. C'est Physique Hello et Barrichello, c'est ça?
Je voulais dire Physico. Donc 17% avec environ 4 000 votes. Le premier abandon de la saison de Button, 13% avec 3 votes. 3000, hein. Et enfin, le
Je crois que j'ai voté 3 fois pour moi.
Le départ mouvementé. 3000, tu veux dire.
Voilà, 3000 fois.
13% avec 3000 votes également.
Voilà.
Donc, 23000 voteurs. Merci.
Donc, c'est à moi de choisir le fait marquant de la course. Donc, en fait marquant de la course, je vais mettre, il y a plein de choix, je trouve, dans cette course. Je vais mettre Kimi Räikkönen, acclamé par la foule, par les tifosi. J'aurais pu mettre les Whisky Scrub, mais non. Je préfère dire Kimi acclamé par la foule. Je sais au moins que j'aurai les suffrages d'Iceman Air. Ensuite, nous avons Enzo.
Eh bien, moi, je dirais que c'est les titres qui échappent définitivement à Red Bull. Ok.
Ce qui se passe, c'est que je vais inverser les bouts et les applaudissements. Donc, les titres qui échappent à Red Bull, ok. Et Shinji.
Oh bah je veux dire le crash d'Hamilton. Hein.
Ah bah voilà, histoire de... Donc, pour le sondage du fait marquant, vous aurez le choix entre Kimi acclamé par les tifosi, les titres qui échappent les titres qui échappent définitivement à Red Bull, le crash d'Hamilton. Tout ça, ça sera sur le site du SAV, www.savf1.fr.nf. Alors, le classement du SAV, messieurs... Tiens, Shinji, propose-nous un podium. Un podium.
Oula. J'ai envie de mettre des points à Sutil, mais aussi à Liuzzi.
Moi, j'ai envie de mettre des points à Lewis parce qu'il a dû se blesser après.
Alors, moi, je vous ai dit, mon podium, j'ai mis Liuzzi, Sutil et Hamilton. Mais ça regroupe ce que vous venez de dire. Hein,
oui, voilà.
Donc, Shinji, tu voulais mettre quoi?
5 pour Sutil, Hamilton 3 et Liuzzi 1.
Liuzzi mérite plus que ça. Certes,
il peut points dans ce cas.
Ouais, mais il mérite même plus que Sutil. Il connaît pas la voiture. T'as vu les qualifs qu'il fait? T'as vu la course qu'il fait?
Alors, lui met 5.
Ouais, j'adore. C'est surtout, c'est que comment vous passez à l'as les 3 premiers de la course. Alors.
Mais, Kimi, il a hérité du podium. Il fait une belle course, mais il a hérité du podium. Et les deux autres, comme je t'ai dit, leur course n'est pas éblouissante. Ils ont mené au bout leur voiture avec la stratégie qui était décidée. Mais c'était, je vais pas dire qu'ils ont conduit avec le coude sur la portière, mais
Bref, je sais pas, Liuzzi.
Non, mais il mérite peut-être pas les 5 points, je suis d'accord. Mettons Sutil le premier.
Ouais, alors moi je mettrais Sutil.
On était,
Sutil, Liuzzi,
en tout cas, on était d'accord sur les 3, hein.
Donc nous avons aucun changement au classement général pour le moment, hein, puisque Button devance Vettel, Weber, Barrichello et Hamilton, qui gagnent 1 point mais reste 5e. On a Sutil qui revient ex aequo avec Lewis Hamilton. Avec 9 points en 5e position. Et on a Liuzzi qui rentre ex aequo avec Rosberg. Voilà. Aucun changement pour le reste. Shinji, l'état des lieux du championnat, toi qui en es l'expert, qui en es le maître absolu.
Très bien. Donc, au championnat pilote, ils ne sont plus que 4 mathématiquement.
Ah oui, c'est particulier.
À pouvoir être titrable. Donc Jenson Button 80 points, Rubens Barrichello 66 points, il a 14 points de retard seulement. Vettel 54 points, Marc Weber 51,5. À noter que Raikkonen a 40 points. Donc s'il gagnait toutes les courses, il serait à égalité de points, mais il aurait moins de victoires.
Voilà. Ouais.
Voilà. Chez les constructeurs, eh bien c'est simple, ils sont plus que 2. Brown Mercedes 146 points et Red Bull 105,5.
Attends, tu veux dire qu'on est plus champion?
Ah voilà, à noter que les deux champions, c'est-à-dire Lewis Hamilton et Ferrari, ont officiellement perdu leur titre ce week-end.
Non! Ferrari! Non! Voilà, Donc voilà.
Elle était triste.
Donc, alors messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle.
Oui.
Non.
La santé financière du SAV en ce moment n'est pas très bonne.
Oui.
Et donc, nous avons dû passer des contrats. Et donc maintenant, nous allons être obligés de passer une page de publicité pendant l'émission.
Eh oui, c'est triste. Voilà. C'est la dure loi du marché et du capitalisme. Voilà.
C'est Flavio qui m'a conseillé.
C'est pour le Enzo F1, j'espère, la pub.
Ah, tu verras. Donc voilà.
T'as payé?
Je suis obligé de mettre. Ah, il faut que tu payes cher.
Il faut avoir une pub pour payer.
Donc voilà, donc attention à la publicité tout de suite sur le SAV de la F1.
Service après-vente de la F1.
Dites chef, c'est quoi le SAV de la F1?
Tais-toi petit et mange tes céréales.
Non mais chef, c'est quoi le SAV de la F1?
Quoi? Tu les aimes pas tes céréales? Tu veux du lait peut-être?
Mais non, je veux savoir c'est quoi le SAV de la F1.
Écoute petit, prends du lait, regarde cette bouteille. Avec son bouchon, la bouteille reste toujours bien hermétique. Et tu peux même la mettre à l'envers. C'est chouette, hein?
Bon, très bien. Chef, pourquoi Lewis s'est planté?
Alors tu vois petit, le service après-vente de la F1 est un podcast après Grand Prix qui revient en profondeur sur la qualité de la F1 et sur la dernière course. Maintenant, mange les céréales.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 est un podcast d'après Grand Prix disponible sur iTunes Music Store ou sur www.savf1.fr.nf.
Oh, c'est beau.
Mon problème, c'est que pour le moment, il n'y a que nous qui payons les pubs. Donc, c'est, c'est nous qui mettons l'argent dans la boîte. Donc, voilà. Donc, messieurs, les drive-thru of the weekend.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Je vous propose, comme j'ai un peu abordé le sujet, de commencer. Hein. Moi, je voulais en mettre un à Lewis. Parce que faire un bon Grand Prix comme il fait, c'est faire un bon Grand Prix. Mmh. Et alors que, alors, avec Mac Brank et avec les trois pignoufs de TF1, on pourrait croire que Lewis pouvait remonter. Il reste 5 tours, on est sur un circuit italien. Même avec le Kers, il y avait très peu de chances qu'il dépasse Button. Je ne comprends pas pourquoi il a continué à attaquer. Il est en train de signer dans le dernier tour, il est en train de signer son meilleur premier partiel. Et je ne comprends pas. Alors c'est sûr, c'est une qualité d'être un attaquant et de jamais rien lâcher. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors que là, il y a, entre guillemets, plus rien à gagner. Oui. Et l'intérêt, il a à continuer d'attaquer et donc à sortir, comme il est sorti à l'ESMO, au risque de se faire très mal. Et au risque de perdre 6 points pour en donner 6 à Raikkonen, qui reprend un peu plus d'avance au classement constructeur, tout comme Ferrari reprend le large. Donc voilà,
c'est Ferrari qui lui a demandé pour que qu'un pilote Ferrari soit le podium.
Tu penses?
C'est un complot.
Non voilà, moi je, alors il s'est excusé et tout après, etc. Et mais voilà, c'est je trouve, là pour le coup, faut quand même se rappeler que c'est des mecs qui sont payés, qui sont des professionnels. Et là, je trouve que c'est quasiment une faute professionnelle que de continuer à attaquer comme ça, même si McLaren lui met le feu vert. Mais
virons-le.
Oui, voilà, virons-le. À vous, messieurs. Et Hartung, ce serait fichu là cette semaine.
La communication la communication de Renault.
Ah bon?
Ouais, sur l'affaire, parce que à dire. Briator qui dit je porte plainte pour diffamation pour quoi d'autre il voulait porter plainte
pour attaque calomnieuse quoi
et chantage
oui et chantage voilà. Alors que il sait pertinemment que ils ont pas été c'était pourri leur communication
ils ont réagi que finalement que mercredi dernier ils ont vraiment repris l'affaire en main et on a l'impression que jusque là ils se sont laissés embarquer par la gestion Briator, alors que justement Briator est impliqué. Voilà, ça a continué à entretenir une image très mauvaise de la F1, et aujourd'hui, il y a qu'à voir, aujourd'hui on a parlé sur toutes les chaînes, il y avait des lives en direct de l'affaire Renault, et que, effectivement, cette mauvaise communication a contribué à faire cette affaire une affaire de plus en plus sulfureuse. Donc je me joins à ton drive-thru.
C'est gentil.
Allez, Shinji, à toi.
Oh là là.
Tu n'as pas de drive-thru, Shinji?
Allez, je vais ressortir une de mes vieilles marottes.
Oh non, pas, non.
Quoi?
Non.
Quoi?
Tu ne nous sors pas les trophées. Pas les trophées Santander. Non. Mais le temps de te laisser chercher, nous allons mettre une petite musique d'attente.
en plus, je l'ai dit ce week-end, on s'est vu, j'ai dit, mais j'en ai pas, moi.
Trouve-en un.
Bon, je vais dire les Red Bull. Ça allait tellement bien, et puis, enfin, voilà.
Donc Red Bull, juste parce qu'ils gâchent leur chance.
Oui, voilà, qu'ils ont gâché leur chance, que si ça se trouve, ils auront peut-être plus jamais la chance de pouvoir être champion du monde. Oh, regarde ce qui s'est passé avec BM.
Oui, tu veux dire que Red Bull va partir, va annoncer son retrait en juillet 2010?
Non, quand même
ils sont allés jusqu'au bout.
Ouais. Donc, on passe à un avant-goût du Grand Prix de Singapour. Donc, vos pronostics.
Button?
Moi, je dirais Barrichello.
Enzo?
Kimi.
Il ne nous reste plus donc que le concours de proposition. Nous te remercions beaucoup, Enzo, de tes questions improvisées pendant tes enregistrements. La dernière fois, tu te rappelles, hein, on avait une question qui quand même sous-entendait que c'était soit Schumacher, soit Badoer, soit on sait pas qui revenait. Et là, on a quand même la question, quel ancien vainqueur du Grand Prix de Belgique était le grand absent de cette édition? Ce qui a quand même permis un large éventail de réponses.
Ah oui, il y avait facilement une bonne vingtaine de réponses possibles.
Bon, heureusement, les gens se sont concentrés sur les mêmes réponses. Donc, on a Stéphane, Jérôme et Maël qui se sont concentrés sur Felipe Massa.
Ouais.
Ah, je pensais pas à lui, moi.
Ah bah, on se doute bien que tu pensais pas à lui. On a Youssef qui nous dit Massa, non, Badoer, non, Michael Schumacher. Auquel cas, je me demande, en quelle année Badoer a-t-il remporté le Grand Prix de Belgique? Et enfin, on a Oscar qui nous dit Michael Schumacher.
Mais sachez que Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost, Jack Brabham, Phil Hill, John Surtees étaient des bonnes réponses.
Ah, mais voilà. Moi, j'avais ma réponse. Ah bon. Il faut que les gens aient la même logique que moi.
Oh, le dictateur, ouais.
Il y avait aussi Mika Hakkinen, David Coulthard, Nigel Mansell, John Watson. Quelle était ta réponse? Réponse penses-tu?
Lui, il va dire Michael Schumacher, mais là, il n'y a plus de
bien sûr. Je suis désolé pour Maël, Jérôme et Eismaner. Je crois que c'est ça. Hein. C'était le grand absent, puisqu'on parlait de son retour et que tous les supporters ont acheté des billets pour être là. Donc, il fallait bien écouter les émissions précédentes. Il y a eu un tube, t'en vas pas, où c'est marqué, où on dit, les paroles sont Choumi revient à Spa. Donc, voilà. C'était pour faire la différence entre ceux qui écoutaient vraiment bien nos émissions, et nous les en remercions, et les autres. Alors les autres, soyez un peu plus attentifs.
Donc toi tu veux donner que gens qui ont répondu Michael, mais moi je suis pas d'accord.
Je suis désolé. Attends, qui c'est qui en go, qui fait le concours top positif?
Alors, chers auditeurs, vous êtes témoins.
Arrête de me piquer mon boulot, j'en ai marre.
Vous êtes témoins. Je tiens à dire, Stéphane, Jérôme, Maël, je ne résisterai pas à Enzo, d'accord? Je vais les laisser s'enfoncer et s'attirer votre colère.
Ils en ont déjà gagné plusieurs en plus.
Donc, tu as le choix entre Youssef et Oscar. Alors, on va faire 1 et le chiffre 2.
2.
Donc, c'est Oscar qui gagne le magnifique manier du Grand Prix de Belgique. Il est joli en plus, celui-là, je crois.
Oui.
Donc, alors, la question top opposition vous est présentée par Enzo.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top opposition présenté par Enzo. Heureusement qu'on coupe au montage, sinon ça serait aussi long qu'un tour de Lucas Badoer.
Vous venez d'écouter le SAV de la F1 consacré au Grand Prix d'Italie à Monza. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin de gagner un magnifique magnète. Dans quel virage s'est crashé Lewis Hamilton lors du dernier tour? Répondez à cette question en utilisant le formulaire contact du site du SAV et à très bientôt pour le prochain SAV consacré au Grand Prix de Singapour.
Voilà, messieurs, c'est sur ce concours top opposition que nous allons nous arrêter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ne réglez pas vos réveils, hein, puisque le Grand Prix aura lieu à la même heure.
J'aimerais finir sur une pensée pour Denis Brognard, puisqu'il vient de perdre quand même un de ses interlocuteurs privilégiés sur la grille, puisque Denis Brognard ne parle que français sur la grille de F1.
Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en espérant que cette émission vous ait plu. Et puis voilà, merci à Enzo, merci à Shinji de leur présence une nouvelle fois. Bon Grand Prix. Salut.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.